7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes le mardi 2 avril. Et événement à ne pas rater ce matin sur notre antenne, Europe 1 reçoit l'auteur français le plus lu dans le monde. Guillaume Musso vient nous présenter son dernier roman qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle La vie secrète des écrivains. Il sera mon invité à 7h45. Le retour des bombes en Corse, deux engins désamorcés, heureusement, hier, devant des bâtiments publics à Bastia. Climat de défiance alors qu'Emmanuel Macron arrive jeudi pour participer au grand débat auquel n'iront pas les nationalistes. À 7h40, l'analyse de Jean-Michel Apathy. Le président du conseil exécutif Corse, Gilles Séméoni, sera notre invité dans le journal de 8h avec David Doucan. 700 000 personnes atteintes d'autisme en France. Comment mieux les insérer dans la vie active au quotidien? À Toulouse, la faculté développe un programme spécial pour les accueillir. On s'y arrête à 7h20 ce matin dans Europe 1. Va plus loin à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme. Ça, c'est le programme. Est-ce que vous, vous êtes prêts à y attaquer? Vous êtes sorti du lit? Vous posez la question, je sais. Allez, un petit café. On est ensemble jusqu'à 9h. Donnez-moi la main. Voilà.
Merci d'avoir choisi Europe 1.
Bon réveil à tous.
Il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour chère Hélène Zélani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Toujours beaucoup de questions après l'intoxication alimentaire mortelle dans un EHPAD de Haute-Garonne. 5 décès, 19 personnes âgées, toujours sous surveillance médicale. 5 ans de prison ferme, réquisitoire sévère contre Bernard Tapie, accusé d'escroquerie et de détournement de fonds. Récit de l'audience avec Chloé Triomphe. Et puis menace sur les épreuves du bac à l'appel du SNES. Les profs pourraient faire grève le jour de la philo, le 17 juin.
À 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, place publique aux élections européennes.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn se rendra aujourd'hui à la Chêneraie, cette EHPAD privée de Lerme au sud de Toulouse où 5 personnes âgées sont mortes vraisemblablement à cause d'une intoxication alimentaire. 19 restent donc sous surveillance médicale. A priori, aucun pronostic vital engagé. Le parquet a immédiatement ouvert une enquête pour homicides involontaires, mais les recherches s'annoncent longues. Question majeure, Hélène Terzian, les repas étaient-ils préparés en interne ou à l'extérieur?
Une cuisine régionale préparée sur place, voilà ce que revendique l'établissement pour ses résidents. Une salade périgourdine que des dizaines de pensionnaires ont donc eu à dîner dimanche. Et malgré ce soin prétendument apporté à la préparation, selon les indiscrétions d'un employé de l'EHPAD, c'est bien un repas livré au préalable par la centrale Sodexo et sous forme de produits congelés qui leur a été servi. Dès hier matin, le fournisseur nous a confié avoir ouvert une enquête pour analyser tous ces produits témoins livrés à cet EHPAD. Des résultats qui seront connus d'ici 2 jours. Mais déjà, selon nos informations, Sodexo se défend et affirme qu'il n'est pas responsable de tout ce qui intervient après la livraison. Et c'est bien ce qui pose question dans l'enquête menée par la gendarmerie, qui pointe déjà cet indice. Toutes les victimes ont un point commun. Elles ont mangé ce repas sous forme mixée, une bouillie à laquelle il faut ajouter un liant tel que de la crème, du beurre, du lait ou bien de l'œuf. Et c'est possiblement lors de cette étape, malgré des normes d'hygiène draconiennes, qu'une toxine a pu s'introduire dans le plat.
Hélène Terzian. Je viens en Corse disponible et volontaire, déclaration d'Emmanuel Macron dans le journal Corse Matin. Aujourd'hui, le président est attendu jeudi pour la dernière étape du grand débat, rencontre avec les élus boudés par Gilles Séméoni, président autonomiste du conseil exécutif Corse, que vous entendrez donc dans le journal de 8h. Par ailleurs, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête après la découverte hier de charges explosives devant 2 bâtiments des finances publiques à Bastia. Aucune revendication. Notez aussi que France 2 va devoir inviter Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau à son débat de jeudi sur les européennes. Décision du tribunal administratif de Paris au nom du respect du pluralisme.
4h30 de réquisitoire hier au procès de Bernard Tapie pour escroquerie.
Oui, les deux procureurs ont eu la main lourde à l'encontre des protagonistes du fameux arbitrage présumé truqué qui avait permis à l'homme d'affaires d'empocher plus de 400 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. 5 ans de prison ferme pour Bernard Tapie. Récit de Chloé Triomphe.
Une absence de limite, un entrisme forcené, une capacité à se présenter comme une victime, les deux procureurs ont dressé un portrait sévère de Bernard Tapie, qui rongeait visiblement son frein en les écoutant et qui n'a pas pu s'empêcher de laisser sa colère s'exprimer après l'audience. « Vous passez une bonne soirée », a-t-il tempêté auprès des avocats de l'autre camp. « Moi, je vais passer 5 ans en prison. » 5 ans, c'est en effet la peine requise par Nicolas Baietto, qui a précisé que c'était une peine symbolique, car Bernard Tapie n'ira pas en prison avec son cancer. Mais le procureur a insisté sur le quantum demandé pour le principe, parce que selon lui, il est le coordinateur de la fraude et son principe principal bénéficiaire, prêt à tout et à tricher. Ce qui lui reste en travers de la gorge, a-t-il cruellement pointé, c'est qu'il est resté à quai quand les autres, les Arnaud, Pinault, Bolloré, ont fait fortune et c'est un mauvais perdant. Autre cible de la sévérité des deux procureurs, Stéphane Richard, ancien bras droit de Christine Lagarde à Bercy, contre lequel ils ont requis 3 ans de prison et l'interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. Son entourage temporise, l'actuel patron d'Orange attend prudemment l'heure du jugement dans quelques mois.
Chloé Triomphe et ce matin, coup d'envoi des plaidoiries de la défense. Au procès d'Air Cocaïne, des peines allant jusqu'à 25 ans de prison ont été requises contre les 9 accusés. 7 ans contre les pilotes Bruno Odos et Pascal Forêt. L'avocat général s'est dit convaincu qu'il savait qu'ils transportaient 700 kilos de cocaïne à bord de leur avion. Europe 1, il est 7h05.
Et si cette année, le bac était perturbé par une grève des enseignants ?
Oui, c'est une possibilité. Le SNES, principal syndicat du secondaire, opposé à la réforme du lycée, du bac et de Parcoursup, lance une consultation auprès de ses adhérents pour savoir s'ils seraient prêts à faire grève le jour du bac philo et de l'épreuve de français le 17 juin prochain. En fait, Ève Roger, ils espèrent faire plier le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais la coupe est pleine, explique Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES. Le syndicat interroge aujourd'hui ses adhérents pour la première fois sur le thème « Pour ou contre la grève le jour du bac de philo et de français le 17 juin prochain ?»
C'est quelque chose qu'on ne fait pas d'ordinaire parce que les enseignants travaillent toute l'année avec leurs élèves qui sont attachés à les faire réussir. Donc si des profs sont prêts à en arriver là, c'est vraiment parce qu'ils pensent que la situation est grave et qu'elle nécessite qu'on ouvre des discussions.
Il est temps que le ministre de l'Éducation d'abord change de ton, dit-elle, puis qu'il retarde d'un an la réforme du lycée et remette par exemple les maths dans le tronc commun des enseignements en première. Sinon, la menace est réelle. L'éducation nationale manquera de personnel pour surveiller les examens le 17 juin prochain. Alors pas de panique, ça ne veut pas dire que les épreuves n'auront pas lieu, mais chaque académie devra réquisitionner des troupes pour pallier l'absence de profs en grève.
Ouais, Roger, résultat de la consultation du SNES à la fin des vacances de Pâques.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, le président algérien Bouteflika s'apprête à jeter l'éponge. On vous accompagne jusqu'à 9h sur Europe 1. 2 heures d'infos, c'est la matinale. Bon réveil à tous.
Il est 7h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec vous, Hélène Zélani. Et c'est désormais officiel, le président algérien Bouteflika démissionnera dans les jours qui viennent.
Oui, en tout cas avant la fin de son mandat le 28 avril. Ce départ était la principale revendication des manifestants mobilisés depuis la fin février. Chakib est franco-algérien, il habite Orléans, mais n'hésite pas à retourner régulièrement à Alger juste pour défiler. Il salue cette démission annoncée, mais attend beaucoup plus.
C'est une première étape, c'est une bataille qui est gagnée, et la guerre contre un régime corrompu et dictatorial sera encore longue. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça une démission, parce que le 28 avril coïncidait déjà avec la fin du quatrième mandat. Aujourd'hui, les revendications du peuple algérien ont totalement évolué. Ce que le peuple algérien veut, c'est une refonte totale du système qui combattra la corruption qui a gangréné cet État depuis des décennies maintenant. Il fallait qu'il parte, mais bon, le peuple algérien n'est pas dupe, donc on a le président qui part, mais voilà, avec l'expérience de la vie politique algérienne, on sait qu'on enlève le président, mais tout le reste reste en place.
Un franco-algérien joint pour Europe 1 par Pierre Herbulot. À Londres, encore un retour à la case départ. Les députés britanniques ont voté hier soir contre les 4 solutions alternatives à l'accord de Brexit. Theresa May convoque une réunion de crise ce matin avec son cabinet.
Quand les scientifiques se mettent au service des sportifs pour mieux préparer les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Oui, le gouvernement vient d'annoncer une enveloppe de 20 millions d'euros sur 5 ans pour accompagner les projets de recherche qui doivent nous permettre de décrocher plus de médailles. En pentathlon, par exemple, 2 chercheurs en physique de l'entreprise Feeling étudient la discipline du tir au pistolet, Marguerite Lefebvre.
C'est devenu presque banal à l'INSEP. Une séance de tir pourtant pas tout à fait comme les autres, avec des pistolets munis de capteurs ultra sophistiqués. L'entraîneur des pentathlètes, Jean-Maxence Bérou, analyse en direct les performances.
De mon côté, je vais avoir la courbe du lâcher, ce qui permet de voir quelle est la qualité du lâcher au cours du temps. Ça, c'est génial parce que ça permet de faire avancer la réflexion et de gagner en précision. On est toujours dans une quête de haute performance et ça joue souvent à pas grand-chose. Nous, on est très contents de cette collaboration parce que c'est vraiment de la science appliquée au terrain.
Quelle est la pression sur la détente? De quelle manière l'athlète appuie? Avec quelle force? À quel moment? Toutes ces données s'affichent en direct sur une tablette. Montrer aux entraîneurs ce qu'ils ne voient pas. Voilà le pari que s'est fixé Romain Labbé, un petit génie de la physique passé par Normalsup.
C'est agréable de voir qu'au final, tout ce qu'on a fait pendant nos études, on a réussi à l'appliquer quand on a pu travailler avec des sportifs de haut niveau, on s'est rendu compte que tout ce qu'on était capable de faire pouvait être une énorme plus-value pour eux.
Pour les pentathlètes donc, mais pas seulement. D'ici 2024, près de 100 projets de recherche vont voir le jour pour tenter d'aider et d'emmener les athlètes français sur les plus hautes marches des podiums olympiques.
Marguerite Lefebvre.
Merci pour le journal de 7h. Hélène Zelani, je vous souhaite une belle journée.
Vous aussi.
Merci.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11. À 7h11, comme chaque jour, on retrouve Martin Fenot sur le terrain. Nico.
Bonne journée à tous. Vous qui nous écoutez, Martin Fenot est notre reporter. Bonjour Martin, vous êtes où ?
Bonjour Nikos, alors écoutez, ce matin je suis à côté d'un avion militaire très particulier.
Ah bon ?
Il fait 20 mètres d'envergure, il est piloté depuis le sol, c'est un drone de combat Nikos, un drone Reaper.
J'imagine.
Oui, il y en a que 5 en France et si aujourd'hui ils ne font que de la surveillance, bah, à la fin de l'année, ces drones seront armés. Alors ce que vous entendez là derrière, c'est le bruit de son moteur. Hein. Je suis donc sous un hangar de la base aérienne 709 de Cognac. Mm-hmm. C'est vraiment exceptionnel hein, d'être ici au cœur de
c'est
cette
rare
enceinte
de pouvoir
très protégée.
Être aussi près d'un drone.
Exactement, c'est rare parce que dans cette base, eh bien, les pilotes apprennent en ce moment à mener des attaques avec ces drones. Mm-hmm. Je vous propose tout de suite de suivre le lieutenant-colonel Romain Déjard.
La première réaction quand on voit un drone Reaper, c'est waouh, c'est hyper grand. Juste sous les ailes, vous avez 3 points d'emport pour emporter nos bombes et nos missiles. Les bombes, elles font quasiment 1 mètre de long, 250 kg. Alors c'est bizarre parce que finalement, on se dit quand on voit l'avion, vous voyez, ça fait composite, c'est pas du zinc. Oui, mais il peut tenir cette charge-là de manière à pouvoir délivrer les feux quand il y en a besoin.
Ça va permettre quoi sur les théâtres d'opération ?
Accélération du tempo. Il va intervenir donc au Sahel contre les groupes armés terroristes. Quand vous en détectez un aujourd'hui, eh bien, on ne peut que le suivre. Voilà, il nous faut quelqu'un d'autre pour le détruire. Ben, maintenant, on sera autonome pour le faire.
Alors comment les aviateurs, Martin Fenot, se préparent concrètement à piloter ces drones armés ?
Alors ça, Nikos, ça se passe dans un espèce de bunker entouré d'antennes satellites gigantesques. On oui. l'appelle le cockpit ici. Et à l'intérieur, il y a un mur d'écran et devant de jeunes pilotes comme Cédric qui s'entraînent.
L'écran duo, c'est tout ce que je vois au sol à l'aide de ma caméra. Et quand il y a une cible qu'on doit détruire à l'aide d'une bombe guidée laser, j'active le laser hein, jusqu'à l'impact.
Eh oui. Et c'est pas un jeu vidéo, c'est la réalité. Ça veut dire que certaines missions militaires, tiens au Niger par exemple, pourront être pilotées directement depuis la base de Cognac, c'est ça ?
Alors en fait techniquement, Nico, ce serait possible de piloter ces drones qui tueraient à 6000 km de là, mais non, ils ne le feront pas, question de psychologie.
Le pilote de drone, il ne risque pas son corps dans l'action, mais il risque profondément son psychisme. La personne ne va plus faire la différence entre les actes absolument extraordinaires de donner la mort et les actes de la vie normale. Et donc, de manière à diminuer au maximum ce risque, eh bien, l'objectif, c'est d'immerger les gens dans l'action. Et quand ils rentrent à la maison, la coupure se fait et on ne touche plus au monde des opérations.
Donc ça veut dire que les pilotes de drones armés seront systématiquement envoyés près de la zone d'intervention. Mmh. Aujourd'hui, ces drones, on en a 5. L'objectif, c'est d'en avoir 12 opérationnels ici sur la base de Cognac d'ici 2025.
Des drones qui seront notamment déployés dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Merci Martin Fenot en direct de la base aérienne de Cognac en immersion.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, l'édito écho avec vous, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nikos.
Est-ce qu'on paiera un jour en monnaie virtuelle, en monnaie Facebook, j'entends, plutôt qu'en euros ? Est-ce que c'est possible ? On m'a dit que le géant américain y penserait.
Eh bien, il y travaille, le projet est très très avancé, vous allez voir.
À 7h20, direction l'Université de Toulouse. Elle est pionnière dans l'accueil des étudiants autistes. D'autres devraient suivre et c'est aussi un enjeu de société. Le syndrome de l'autisme touche 700 000 personnes en France. Dossier à suivre dans Europe 1. Va plus loin à la question à l'occasion de la journée de l'autisme.
Excellente matinée à tous sur Europe 1. Il est 7h14. Le 7h16, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
C'est une première que vous révèle Europe 1 ce matin. La principale mutuelle des policiers, la MGP, va supprimer de ses fichiers toutes les adresses postales de ses adhérents. Une mesure pour éviter les piratages. 19 personnes restent sous surveillance médicale après l'intoxication alimentaire. Dans un EHPAD près de Toulouse, 5 personnes âgées sont décédées. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se rend sur place aujourd'hui. 5 ans de prison ferme, confiscation de tous ses biens, réquisition sévère à l'encontre de Bernard Tapie, jugé pour escroquerie. Aujourd'hui, place aux plaidoiries de la défense. Match en retard de la Ligue 1 hier soir, Saint-Étienne a battu Nîmes de Buzyn. Les Stéphanois sont désormais 4e du classement. À suivre aujourd'hui, demi-finale de la Coupe de France entre Lyon et le Stade Rennais.
Europe 1. Et c'est l'heure de l'édito Econicos avec la banque Nugé pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Nugé, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barry, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, vous nous révélez ce matin et vous nous parlez d'un projet très discret mais révolutionnaire. Facebook travaille à la mise au point de sa propre monnaie, une monnaie virtuelle qui pourrait concurrencer nos euros.
Exactement. C'est la nouvelle frontière pour les GAFA, en fait, la monnaie. Et après tout, la monnaie est au cœur des relations sociales. Donc, pour un réseau social, c'est assez naturel d'aller sur ce terrain-là pour consolider leur empire. Alors, une cinquantaine de chercheurs travaillent au siège du réseau social à ce projet de Facebook Coin, une crypto-monnaie sur le modèle du Bitcoin qui pourrait devenir une sorte de devise transnationale, la première du genre, et qui concurrencerait les monnaies classiques. Facebook compte 2,3 milliards d'utilisateurs. Donc, vous imaginez le potentiel. Ah oui. Si Facebook met à leur disposition sa propre monnaie.
Ah oui, mais les États ne peuvent pas laisser faire ça, c'est politique là pour le coup.
Oui, mais rien n'empêche techniquement Facebook de créer sa propre crypto-monnaie. Et d'ailleurs, Amazon, Alibaba, Google, tous ont des projets de ce type dans leur carton. Selon la presse américaine, Facebook pourrait lancer sa monnaie dès cet été. Et en clair, ces firmes ont toutes pour projet de s'attribuer à un des éléments, effectivement, de la souveraineté d'un État, donc qui est la monnaie. Et là, il faut s'arrêter une seconde quand même sur cette montagne d'hypocrisie dont sont capables les GAFA. Mark Zuckerberg, dans une tribune qui était publiée ce week-end dans plusieurs journaux du monde entier, dont le JDD, expliquait la main sur le cœur qu'il était pour réguler davantage Internet. Et ce même Mark Zuckerberg, pendant ce temps-là, fait travailler ses meilleurs ingénieurs sur la création d'une monnaie qui viendrait concurrencer celle des États. Plus c'est gros, plus ça passe.
Mais est-ce que ce projet a vraiment des chances d'aboutir ?
Ben oui, parce que le rêve de Facebook, comme des autres réseaux sociaux, et notamment du chinois WeChat, qui est d'ailleurs plus avancé en la matière, c'est que ses utilisateurs achètent des biens et des services entre eux et finalement ne sortent jamais de l'écosystème. Et c'est possible d'y arriver si une grande partie de la population, par exemple, est sur Facebook, ce qui est déjà le cas. Le réseau social peut très bien devenir l'intermédiaire de tout un chacun pour les transactions qui se passent entre les membres du réseau, membres sur lesquels, au passage, le réseau possède une foule de données.
Donc ouais,
en créant leur propre monnaie, les GAFA ont la capacité de devenir en quelque sorte des états parallèles. Et attention, parce que ça peut arriver très vite.
Non, mais c'est fou parce que les réseaux sociaux, ça commence toujours gratuitement, au nom d'un idéal
social.
Rien n'est
gratuit.
Mais à la fin, on parle toujours de la monnaie.
Exactement.
Merci beaucoup Nicolas Barré. L'édito Écho sur Europe 1.
Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Nico, ce matin, on s'intéresse à l'accueil des étudiants autistes en France.
En cette journée mondiale de l'autisme, ils sont encore très peu de jeunes atteints de multiples formes de ce trouble à pouvoir étudier normalement à l'université, 500 à peine dans toute la France selon les derniers chiffres, alors que le syndrome de l'autisme touche aujourd'hui plus de 700 000 autistes en France. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Nikos.
Vous êtes en direct de Toulouse ce matin, Toulouse qui est une ville pionnière puisque l'université Midi-Pyrénées a lancé il y a quelques mois un programme pour tenter de rattraper le retard que nous avons.
Et oui, un programme pour rendre l'université plus accessible, parce que des choses anodines, comme ce brouhaha que vous entendez derrière moi, d'un amphi plein à craquer, un cours qui change de salle au dernier moment, tout ça peut être un obstacle pour certains étudiants à l'intelligence pourtant au-dessus de la moyenne. Ils sont une soixantaine ici d'étudiants ASPI, comme ils s'appellent, c'est-à-dire autistes sans déficience intellectuelle, à l'image de Laura, en troisième année de licence en physique et au quotidien plus éprouvant que les autres.
Une des choses qui me pose le plus problème, c'est le bruit. En licence, il y a du monde, donc j'ai beaucoup de mal dans les amphithéâtres à rester, c'est extrêmement fatigant. Tout le monde qui bouge ses stylos, qui éternue, qui font des trucs tout le temps, on ne se rend pas compte, mais il faut faire le tri entre ces bruits pour entendre la voix du professeur. De manière générale, les élèves arrivent à faire ce tri automatiquement, mais pour moi, ce n'est pas forcément évident d'avoir le temps de retrouver de l'énergie pour suivre tous les cours toute la semaine.
Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Laura a aussi du mal à s'orienter. Elle a mis plus d'un an à se passer du plan de l'université pour aller d'un cours à l'autre. Ça aussi, ça demande beaucoup d'énergie aux étudiants autistes.
Et concrètement, Théo, que fait l'université de Toulouse pour les aider ?
Eh bien, elle a lancé ce programme, Université ASPI Friendly, c'est-à-dire qu'elle adapte ce qui se passe à tous les niveaux. Mm-hmm. Les cours, bien sûr, plus de captations vidéo pour que les élèves puissent suivre depuis chez eux au calme. Des logements du CROUS accordés plus près du campus pour que l'itinéraire soit plus facile à mémoriser. Et plus largement, c'est une formation de tout le personnel administratif, explique Bertrand Montubert, le professeur qui coordonne le programme.
qu'il faut avoir en tête, c'est que si on ne connaît rien de l'autisme, on peut faire énormément d'erreurs, malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir. Des choses extrêmement simples. Vous êtes enseignant, vous avez besoin que les étudiants réalisent un travail en groupe. Et vous dites, mettez-vous en groupe de trois. Une simple situation comme celle-là, qui suppose en réalité beaucoup de compétences sociales. Aller s'adresser à quelqu'un d'autre en disant, tiens, est-ce que tu veux bien qu'on se mette ensemble ? Peut être extrêmement compliqué. C'est comme ça que beaucoup de nos étudiants autistes se retrouvent toujours tout seuls.
On a entendu le professeur qui coordonne le programme. Bon, il y a de la vidéo, des professeurs plutôt sensibilisés à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Est-ce que ça fonctionne dans la réalité, Théo ?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire, hein. Ça n'a commencé qu'à l'automne. Mais ce qui semble déjà fonctionner, Nikos, c'est bien cette communication, ces regards qui changent sur ce que les étudiants peuvent traverser au quotidien. Aubin est en première année de master en mathématiques.
Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai dû sortir de cours pour me défouler.
Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ?
Sensation de panique. Je me sentais paniqué, sans savoir pourquoi. Je dis poliment au professeur si je peux sortir. On a accepté ma sortie.
Et il y a des aménagements aussi au moment des examens ?
On fait le maximum pour que je puisse composer séparément de la classe, pour pouvoir me concentrer. Mais il faut des surveillants supplémentaires et on a du mal à trouver ces personnes-là.
Et on le sent bien. On sent bien que ce n'est pas encore facile. Alors, ce programme doit se développer. Une quinzaine d'autres universités françaises sont partenaires. On est à la traîne par rapport à d'autres pays, Théo Manval.
Oui, et le mieux placé pour nous en parler, c'est notre ami Joseph Chovanec, hein, que les auditeurs des Carnets bien du sûr. Monde connaissent bien sur Europe 1 tous les dimanches. Philosophe, grand voyageur et autiste Asperger. Alors, il y a peu de bons élèves, nous dit effectivement Joseph, et la France n'en fait pas partie.
Il y a d'un nombre de pays, les USA, Israël, etc., des cursus spécialement conçus pour étudiants autistes. Il y a même des campus universitaires spécialisés dans l'autisme. Certains pays qui ont mis le paquet. Et il ne s'agit pas d'une révélation humaniste. Ces personnes-là peuvent avoir un apport humain, économique absolument fondamental.
Alors reste quand même le défi ensuite de l'insertion professionnelle, même si l'Université de Toulouse s'est rapprochée d'entreprises comme Thales ou Microsoft. Passer au recrutement reste compliqué après. Un chiffre le montre. Selon une association britannique, 15% seulement des adultes autistes ont un emploi rémunéré à temps plein.
Encore du chemin à faire, mais coup de chapeau quand même ce matin à l'Université de Toulouse et aux autres qui travaillent à mieux accueillir les étudiants autistes. Merci Théo Manval pour ce dossier signé. Europe 1 va plus loin.
Et si vous souhaitez réagir, c'est simple, hein, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Nous vous accompagnons jusqu'à 9h, c'est la matinale d'Europe 1. À suivre dans quelques instants l'innovation avec vous, Anissa Mbida.
Oui, bonjour. On va parler de robots pompiers qui partent éteindre le feu tout seuls quand ça devient trop dangereux pour nous, les hommes.
Des robots télécommandés, j'imagine.
Vous allez voir.
Bon, très bien, tout de suite.
Bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h24. Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour et l'innovation c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
Peut-être que vous êtes encore chez vous en cuisine en train d'essayer de faire un café, quelque chose de robotique, de robotisé devant vous, et bien des robots pourrait bientôt venir soutenir des pompiers. Anissa, l'idée, c'est de les faire intervenir quand les missions deviennent trop dangereuses pour l'humain.
Oui, typiquement dans une usine avec des produits chimiques ou radioactifs, ou bien quand il y a du gaz, hein, comme dans l'explosion qui a eu lieu rue Trévis à Paris, vous savez, c'était en janvier. Eh bien, désormais, on va pouvoir s'appuyer sur des robots sapeurs-pompiers. Alors, il y aura d'abord une sorte de drone éclaireur qui va repérer les foyers les plus importants et trouver les meilleures voies d'accès. Mmh. Et ensuite, on envoie un petit automate avec une lance à incendie qui va éteindre le feu et éviter de mettre justement les sapeurs-pompiers humains en danger.
Mais ça veut dire que cet automate, il est télécommandé, il est piloté à distance ?
Les deux, mon capitaine. Hein. Ah. Il travaille de façon complètement autonome, mais le pompier, avec son expérience, bah, lui, il peut demander d'insister, par exemple, sur une zone en particulier pour éviter que le feu ne reparte. Et ils sont fabriqués par Mitsubishi Heavy Industrie, c'est ce qu'on appelle des cobots, des robots collaborateurs. On dit souvent que les robots vont remplacer, vont nous piquer notre boulot. En fait, on va surtout travailler avec eux, collaborer pour être plus efficace et pour éviter de se mettre en danger.
Toujours un peu louche, hein, le terme un robot collabo. Hein,
collaborateur,
ouais, c'est mieux, c'est pareil. Et si vous voulez en savoir plus sur les robots, ne manquez pas le tour de la question avec Wendy Bouchard ce matin sur notre antenne à 10h. C'est une spéciale robotique à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Robots à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Merci Anissa Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans deux minutes, ce sera le journal de Céline Kallmann et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Il y a de l'orage dans l'air.
Eh ouais.
C'est un peu ça. Vous voyez, les orages aujourd'hui vont se manifester dans le courant de l'après-midi, mais ils seront quand même pas. Ils sont nombreux. Je ne sais pas s'ils seront violents, parce que malheureusement, on ne peut pas le dire dès à présent, mais ils seront nombreux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous changeons de masse d'air. Je disais tout à l'heure, les températures vont baisser demain. Et donc, aujourd'hui, il fait encore très doux. Il fera encore très doux. 12 à Rennes, 13 à Cognac, 15 à Lille, 16 à Marseille, 18 à Paris, 19 à Colmar et 21 à Lyon. Température maximale. Et demain, eh bien, nous perdrons 4, 5, 6 degrés.
Alors, quand même.
Dans la météo des cartables, je conseille à tous nos amis qui sont en train d'habiller leurs enfants de leur donner quand même un petit coup de vent et surtout un petit imperméable, parce que la pluie est là. Pardon, la pluie est là à peu près partout, sous des formes diverses. Alors ce matin, nous la retrouvons un peu sur la Champagne-Ardenne, le Nord, l'Île-de-France, donc Paris, le Morvan, l'Orléanais, le Limousin, les Midi-Pyrénées. Et ensuite, dans l'après-midi, elles seront plutôt présentes sur des régions comme le Nord, la Picardie, la Normandie et le Poitou-Charentes. Voilà, c'est une journée difficile à définir en quelques mots, parce que vraiment les types de temps vont varier à un moment ou l'autre de la journée, mais dans l'ensemble, c'est quand même une agitation modérée qui va se concrétiser demain par une agitation beaucoup plus froide.
Donc on garde les pulls pas très loin. Vous connaissez des Sandrines ?
J'en connais, oui.
Alors c'est la Sainte Sandrine, appelez-les.
Ah ben on leur fait des bises.
Merci Laurent Cabrol. À suivre à 7h40, Jean-Michel Apathy, la Corse qui retrouve ses vieux démons. Deux engins explosifs découverts hier à Bastia alors qu'Emmanuel Macron arrive pour un grand débat jeudi sur place. À 7h43, Axel de Tarlé, mais que se passe-t-il avec les compagnies aériennes ? Elles font désormais partie des plus gros pollueurs de la planète. Et à 7h45, je reçois l'auteur français le plus lu dans le monde, le romancier Guillaume Musso. Son dernier livre, La vie secrète des écrivains, sort aujourd'hui et il est mon invité sur Europe 1. Excellent réveil à tous.
Nous sommes le mardi 2 avril et il est 7h30. Tout
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. L'inquiétude s'installe dans le village de Saint-Pazanne en Loire-Atlantique. Europe 1 vous le révélait vendredi dernier, le nombre de cancers pédiatriques est deux fois plus élevé dans cette commune que dans le reste de la France. Et trois nouveaux cas viennent d'être signalés. Alors forcément sur place, les parents sont de plus en plus inquiets. François Coulon.
Le collectif Stop au cancer de nos enfants avait lancé un appel à témoignages vendredi. Plusieurs mails ont fait état ce week-end de nouveaux cas de cancer pédiatrique dans le secteur. Trois d'entre eux sont médicalement confirmés, Marie Thibault.
Deux enfants en traitement et un enfant en stade de rémission.
Il y en a encore d'autres ?
Éventuellement. Ça fait beaucoup là. C'est beaucoup trop.
À Sainte-Pazanne, l'inquiétude est montée d'un cran hier à la sortie de l'école Maurice Pigeon.
J'ai un petit garçon de 4 ans, c'est une angoisse. Après, on va pas non plus déménager pour aller où, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit de toute façon.
On a très peur pour nos enfants. On se demande si nos enfants vont être touchés. On ne sait pas du tout d'où ça vient. Très inquiétant.
On se perd ici en conjecture, beaucoup privilégient le facteur environnemental.
L'été, il y a ce qu'on appelle l'épandage. Il y a souvent des odeurs qui viennent jusque dans nos jardins. Est-ce que ça viendrait de ça ou pas ? On se pose maintenant des questions.
Je suppose que les vignes, les pesticides, tout ça ont beaucoup à voir. En consommant l'eau, ça doit arriver chez les gens.
Une réunion publique se tiendra jeudi soir à Sainte-Pazanne avec l'ARS. Sainte-Pazanne, François Coulon, Europe.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est attendue en Haute-Garonne à Lerme aujourd'hui, après la mort de 5 résidents d'un EHPAD victime d'une intoxication alimentaire. Une enquête est en cours. Parmi les éléments à vérifier figurent entre autres la chaîne du froid et la manière dont ont été préparés les repas. Les familles des victimes sont en colère et sous le choc, comme Emmanuel prévenu en pleine nuit de la mort de sa maman.
On est venu avec ma sœur qui habite Lyon en avion, mais on n'a réussi à voir personne. À chaud, il faut savoir raison garder. Quand on place sa maman dans une maison de retraite, c'est pas pour qu'elle finisse intoxiquée.
Vous souhaitez porter plainte ?
Oui. Je vais en discuter avec mes sœurs, mais probablement oui. C'est la seule façon d'avoir accès au dossier aussi, puis savoir ce qui s'est passé.
Un témoignage recueilli par Benjamin Péter pour Europe 1. La métropole de Lyon a saisi les tribunaux après 15 jours de grève des éboueurs. Objectif, débloquer l'accès aux usines d'incinération. Le président de la métropole, David Klinsfeld, évoque également des mesures de réquisition. France 2 devra inviter Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau à son débat de jeudi sur les européennes par respect du pluralisme. À défaut, ils devront les inclure dans un rendez-vous similaire avant le 23 avril.
Les supermarchés pourraient bientôt rester ouverts plus facilement après 21h.
Dans les grandes villes, certaines enseignes le font déjà, mais elles se font parfois rattraper par la justice pour travail de nuit illégal. La loi Pacte devrait faciliter tout cela, Anne-Laure Jumet.
Pouvoir pousser la porte d'un Carrefour Market, Auchan City ou encore Intermarché Express après 21h, les clients le réclament à Paris et dans les grandes villes, affirme Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.
Que ce soit pour des clients qui viennent après leur travail, que ce soit pour des touristes, on est dans des grandes villes où les gens ont besoin de pouvoir faire leur achat de consommation courante en soirée. Ce sont plusieurs millions de clients qui déjà chaque année viennent dans les magasins alimentaires après 21h.
Mais la loi ne suit pas, les critères du travail de nuit sont strictes. Le groupe Monoprix a ainsi été sommé par la justice de ne plus employer de personnel après 21h malgré un accord signé avec les syndicats. Une situation qui a conduit les parlementaires à légiférer, ce que dénonce Karl Gazi de l'intersyndicale ClicP qui avait mené la fronde contre le travail en soirée.
C'est clairement du sur-mesure pour Monoprix. On va tenter de contester autant que possible. D'abord dans le cadre strictement franco-français, puis en invoquant le cas échéant des traités internationaux.
Et sans attendre cette nouvelle loi, les enseignes développent des concepts pour se passer de personnel. Une ouverture 24 heures sur 24 avec des caisses automatiques.
Anne-Laure Jumet, 5 ans de prison ferme, requis contre Bernard Tapie, jugé pour escroquerie. Le jugement sera connu dans plusieurs semaines. Et puis des peines allant jusqu'à 25 ans de prison requises contre les 9 accusés du procès Air Cocaïne. 7 ans demandés à l'encontre des 2 pilotes. Le constructeur Renault a de nouveaux doutes sur Carlos Ghosn. La marque a effectué un nouveau signalement au parquet de Nanterre. Des transferts d'argent de plusieurs millions d'euros. Carlos Ghosn est toujours au Japon inculpé pour abus de confiance avec interdiction de quitter le pays.
Le journal de 7h30 avec Céline Kalmanan. Grande-Bretagne, les députés ont dit no et encore no.
Oui, après avoir rejeté 3 fois déjà l'accord de Theresa May, les députés britanniques ont une nouvelle fois rejeté les options qui leur étaient présentées. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Theresa May tient ce matin une réunion de crise avec son cabinet.
Oui, une réunion marathon, conseil des ministres exceptionnel prévu pour durer 5 heures, 3 heures ce matin en petit comité, pause déjeuner et encore 2 heures dans l'après-midi avec cette fois quelques conseillers supplémentaires. Theresa May va jouer sur un fil car son équipe est si divisée qu'à en croire les éditorialistes anglais, il y aura de la casse, des démissions à la sortie, mais elle veut quand même le prendre ce risque pour déterminer la stratégie à adopter et analyser le vote d'hier, principalement les 2 propositions qui ont eu le plus de voix. Rester dans l'union douanière et puis l'option d'un deuxième référendum. C'est celle qui recueille le plus de soutien à la Chambre des communes, mais parmi ces 2 solutions, aucune n'obtient autant de suffrages que l'accord de Theresa May voté vendredi. Voilà de quoi l'encourager à présenter son texte une 4e fois.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Il y a du football ce soir, Nikos, demi-finale de la Coupe de France. Lyon affronte Rennes, coup d'envoi 21h10. Et puis hier soir en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a battu Nîmes 2-1. Les Verts prennent la 4e place du classement à Marseille.
Vous n'étiez pas né à la grande époque de Saint-Etienne, aller les Verts, tout ça. Ouais, merci beaucoup. C'était Céline Kalman pour le journal de 7h30.
Et vous pouvez réagir à l'actualité, réagir également à nos reportages, hein, comme celui de Théo Manval, dont le dossier Europe 1 va plus loin, consacré à l'autisme, avec ce programme pour les autistes à l'Université de Toulouse que Marie salue. Bravo, un bel exemple. Vous pouvez le réécouter en podcast sur europe1.fr.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
On va partir en Corse, Jean-Michel Apathy, dans un instant.
Oui, en Corse, 2 engins explosifs ont été trouvés hier à Bastia. Alors ça précède juste une visite du chef de l'État qui sera là-bas jeudi. Alors on dit, ça c'est le folklore corse. Et on a tort. Ça c'est dangereux, inacceptable. Et s'il y a un mauvais climat en Corse, c'est à cause des élus corses. Et il faut le dire simplement et clairement.
Bon, très bien, à tout à l'heure, à tout de suite plutôt. Axel de Tarlet, on va prendre l'avion ou pas?
Oui, bah oui, parce que Ryanair fait son entrée dans le club peu enviable des plus gros pollueurs de l'Union Européenne.
Apathy Tarlet, le duo gagnant dans un instant sur Europe 1. On vous accompagne jusqu'à 9h. Merci de votre confiance.
Bon réveil à tous, il est 7h36. Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
2 engins explosifs ont été trouvés hier à Bastia, Jean-Michel. Ce sont des bâtiments des impôts qui étaient visiblement visés. Et c'est sans doute pas un hasard, parce qu'Emmanuel Macron est attendu jeudi en Corse pour participer au grand débat.
Absolument. C'est un vent mauvais qui souffle en Corse. Ces 2 engins explosifs, c'est de l'intimidation. Et alors on me dit, bon, c'est la Corse, c'est le folklore corse. Et on a tort. Que dans la République, des engins explosifs soient déposés, c'est un problème. Alors, on connaît la revendication indépendantiste de certains Corses depuis longtemps. Mais quand même, il faut situer actuel contexte, depuis décembre 2015, la collectivité territoriale de Corse, qui a des pouvoirs qu'aucune autre région en France ne possède, est dirigée par des élus nationalistes et indépendantistes. Moi, je n'arrive pas à faire la différence entre les deux, il paraît qu'il y en a. Très bien. Ces élus-là, plutôt que d'utiliser à fond les compétences de leur collectivité, d'essayer de régler les problèmes du territoire, s'en prennent tout le temps à l'État. Plutôt que d'assumer leurs responsabilités, ils disent que le chômage, c'est la faute de l'État, l'insécurité, c'est la faute de l'État, tout est de la faute de l'État. Et du coup, ils créent sur l'île un climat de tension qui échauffe les têtes qui sont déjà chaudes et qui vont déposer donc des bombes devant les bâtiments du fisc. Ben voyons, c'est tellement facile. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Jean-Guy Talamoni, qui est président de l'Assemblée de Corse, a dit il y a quelques mois « La France est un pays ami de la Corse ». Mais ce sont des provocations qui ne servent à rien. Ça ne peut que alimenter des rancœurs, de la violence. Jeudi, le chef de l'État sera à Cozzano, qui est une petite ville de Corse du Sud. C'est le dernier débat du très grand débat dont il est temps par ailleurs qu'il finisse. Ni Jean-Guy Talamoni, donc je l'ai dit, lui il est président de l'Assemblée de Corse, ni Gilles Simeoni, qui est président, non, oui président, oui, du Conseil exécutif de Corse, je m'y perds un peu, ne seront là pour accueillir le chef de l'État, pour l'accompagner durant sa visite. Mais c'est pas un comportement normal, c'est anti-républicain, c'est antidémocratique. Il est élu aussi, Emmanuel Macron, tout comme Talamoni et Simeoni, pas plus et pas moins. Pourquoi agissent-ils comme ça? Simeoni dit « Ah, le climat est trop tendu pour qu'on accompagne le chef de l'État ». Bien sûr que le climat est tendu, c'est eux qui le tendent. C'est eux qui n'arrêtent pas de critiquer l'État, mais qu'ils aillent au bout de leur démarche.
Parce qu'ils ont des revendications.
Mais quelles revendications ils ont? Aucune. Toutes les revendications sont satisfaites. Ils veulent la
langue
de Corse.
On va lui passer un coup de fil.
La langue de Corse, on l'enseigne, il y aura une agrégation de Corse bientôt.
On va lui passer un coup de fil à Simeoni dans 20 minutes, si vous voulez.
Mais s'ils allaient au bout de leur démarche, on parle tout le temps des référendums. Là, il faut faire des référendums à propos de tout. Même j'en ai parlé hier à propos d'autre chose. Mais s'il y avait un référendum demain sur l'île, si on demandait aux gens, vous voulez quitter la République ou vous voulez rester au sein de la République française? Mais à une très grande majorité, les gens diraient bien sûr qu'on veut rester en France. Ouais. Et les autonomistes et les indépendantistes jouent là-dessus. C'est de l'ambiguïté permanente. Ils flattent des clientèles électorales. Ils nourrissent les tensions et un jour tout ça finira mal. Donc ça n'est pas très digne. Et M. Talamoni et Simeoni feraient mieux de recevoir, avec les égards qu'il mérite, le président de la République française, parce qu'il est élu comme ils le sont eux-mêmes.
Alors, Jean-Michel Apathy, qui est voilà, sans langue de bois ce matin, et comme d'habitude sur Europe 1. Et vous savez quoi? On va passer un coup de fil dans le journal de 8h, tiens, avec David Doucan, à Gilles Simeoni, pour lui poser la question, pourquoi ne va-t-il pas accompagner le président de la République et quelles sont ses revendications?
On passe à l'économie avec la Caisse d'épargne qui vous présente le Zoom Echo. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Axel de Tarlé, c'est inédit. Une compagnie aérienne, Ryanair en l'occurrence, Ryanair, fait son entrée dans le top 10 des plus gros pollueurs en Europe.
Oui, alors c'est simple, dans ce classement peu glorieux hein, des 10 plus gros émetteurs de CO2 en Europe, on ne trouve que des sociétés de centrales à charbon, donc des sociétés en Allemagne et en Pologne, donc que des centrales à charbon et une compagnie aérienne qui fait son entrée à la 10e place. Vous avez donné son nom, Ryanair. Alors c'est un classement qui est établi par l'ONG bruxelloise Transport et Environnement, qui s'appuie sur les chiffres officiels de l'Union européenne. Donc le constat est limpide, les émissions de CO2 baissent en Europe, moins 4% l'an dernier, parce que tout le monde fait un effort en Europe, notamment d'ailleurs ces compagnies d'électricité, qui même si elles polluent beaucoup, essayent de moins brûler de charbon. Donc tout le monde fait un effort, sauf le secteur de l'aérien, dont les émissions de CO2 explosent, plus 5% l'an dernier, plus 26% en 4 ans, avec en tête de gondole, donc on l'a dit, Ryanair. EasyJet suit à la 31e place, donc des plus gros émetteurs, avec des émissions en forte hausse, plus 11% pour EasyJet.
Mais pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Parce que les compagnies aériennes ne sont pas soumises aux mêmes contraintes?
Exactement. On peut même dire que le secteur aérien bénéficie d'un traitement de faveur. Pas ou peu de normes réglementaires, contrairement par exemple au secteur automobile qui croule sous les réglementations. Et puis surtout, aucune contrainte financière. Le secteur est même encouragé financièrement. C'est même assez extraordinaire. Le kérosène est le seul carburant fossile qui ne supporte aucune taxe. Rendez-vous compte, même pas de TVA. Il y a peu de produits quand même qui peuvent se vanter d'avoir une TVA à 0%. Eh bien, il y a le kérosène.
Vous êtes énervé ce matin.
Bah oui, alors on le sait, c'est le fruit d'un accord international parce que sinon les avions iraient faire le plein dans les pays où le kérosène n'est pas taxé. Il n'empêche, ça devient problématique d'abord en termes d'acceptation politique. On l'a vu lors du débat avec les Gilets jaunes. Difficile de taxer l'automobiliste et d'épargner ceux qui prennent l'avion, qui est quand même un produit de luxe. Et puis surtout, ça devient maintenant un sujet environnementale avec les compagnies aériennes qui rejoignent maintenant les centrales à charbon dans le palmarès des plus gros pollueurs de la planète.
Axel de Tarlet sur Europe 1 ce matin.
C'était le Zoom Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Alors, chers amis, je ne sais pas, et chères auditrices et auditeurs, si vous avez déjà lu un Musso. C'est possible. Vous avez déjà lu un Guillaume Musso?
Tout le monde.
Non.
Non.
Mais je vais m'y mettre.
Je vais vous l'offrir. Parce qu'il est l'auteur français le plus lu dans le monde. Il vient nous présenter son dernier ouvrage qui sort aujourd'hui. S'appelle La vie secrète des écrivains aux éditions Calman Lévy. A tout de suite.
Il est 7h45. Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
50 prisons fermes, réquisition hier soir à l'encontre de Bernard Tapie, jugé pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008. 18 mois fermes ont été requis à l'encontre de l'actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard. Le jugement ne sera pas attendu avant plusieurs semaines. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, attendue à Lerme, près de Toulouse aujourd'hui, après le drame survenu dans un EHPAD où 5 résidents ont perdu la vie, victime d'une intoxication alimentaire. Les obsèques d'Agnès Varda aujourd'hui à 14h au cimetière du Montparnasse à Paris. À 11h, la Cinémathèque rendra aussi hommage à l'artiste, une cérémonie qui se déroulera notamment en présence de ses enfants.
Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin Guillaume Musso. Il vient nous présenter son nouveau roman qui sort aujourd'hui, La vie secrète des écrivains, aux éditions Calman Lévy.
Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
C'est votre 16e roman, vous êtes le romancier français le plus vendu dans le monde. En France, vos livres sont numéro un dès leur sortie. Voici La vie secrète des écrivains qui sort aujourd'hui. Est-ce que vous avez le même trac qu'à vos débuts ?
Oui, mais c'est un trac positif qui se double aussi d'une excitation qui est celle de jouer avec le lecteur. Pérec disait « La littérature est un jeu qui se joue à deux » et donc j'ai très envie de jouer.
Dans cette dialectique d'échange avec le lecteur, ça marche plutôt bien pour vous. Vous êtes une star de l'édition. Il n'y a pas de recette Musso ?
Vous savez, il y a Somerset Maugham qui disait il y a trois règles pour écrire un roman, malheureusement personne ne les connaît. Et c'est assez vrai et c'est la caractéristique en fait de l'écriture, c'est qu'on ne sait jamais si on va réussir à écrire un nouveau livre, même si on a écrit 10 avant, on ne sait jamais si on va parvenir à écrire le 11e. Et c'est ça qui est à la fois source d'angoisse et source d'excitation et Ma seule règle, disons, c'est d'essayer, dans la mesure de mes moyens, à chaque fois, d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur.
Alors, dans votre nouveau roman, le personnage central s'appelle Nathan Fowles. C'est un écrivain célèbre qui plaque tout et qui part s'installer ailleurs. Pendant 20 ans, il quitte la gloire pour aller vivre reclus sur une île de la Méditerranée. Et depuis 20 ans, il n'écrit plus une ligne. Il ne donne plus d'interview. Personne ne sait pourquoi. Et là, arrive une jeune femme.
Une jeune journaliste qui est persuadée que Nathan a un secret et elle est prête à essayer de fouiller finalement dans les méandres et dans le tumulte de son passé pour essayer de savoir pourquoi cette légende des lettres a arrêté d'écrire.
C'est un peu un cheval de bataille, le secret, chez vous, Guillaume Musso. Il y a toujours des tiroirs, il y a plusieurs degrés de lecture. Mais le genre policier, c'est apparemment ce que vous préférez. Pourquoi ?
Oui, parce que moi, je dis toujours que j'écris des thrillers intimes, c'est-à-dire des romans à suspense, mais dans lequel le suspense est mental et dans lequel le suspense se déploie dans l'intimité, finalement, des personnages.
Des personnages, ouais.
Et on dit souvent la fameuse phrase de Gabriel Garcia Marquez, chaque homme a trois vies, une vie publique, une vie privée, une vie secrète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller fouiller, d'aller gratter la vie secrète de mes personnages, parce qu'on a tous une vie secrète qu'on porte en nous et qui nous définit, qu'on le veuille ou non.
Est-ce que la vie secrète de ce personnage qui est un romancier, un écrivain, est aussi un peu la vôtre ? En tout cas, ça vous permet à travers lui, Guillaume Musso, de dire des choses assez caches sur le milieu de l'édition, par exemple. Vous dites des gens qui déjeunent jusqu'à 15h à Saint-Germain-des-Prés pendant que tu te brûles les yeux devant ton écran, ou alors des gens qui, une fois que tu auras connu le succès, souvent malgré eux, raconteront partout qu'ils t'ont fabriqué. C'est Guillaume Musso ou c'est l'écrivain de l'ouvrage qui parle ?
Alors là, il parle des éditeurs.
Ouais.
C'est pas un message
personnel
de ma part. Non, il y a. C'est parce que c'était utile pour la caractérisation du personnage.
Même si vous avez changé effectivement d'éditeur, c'est une question qu'on peut vous poser il y a moins de 2 ans. C'était quoi l'enjeu ? Pourquoi on change ?
On change parce que à un moment, vous savez, dans ces métiers artistiques, vous essayez de garder finalement certaine énergie, il faut se renouveler. Et puis, c'était un moyen de continuer, en fait, de travailler avec, avec des gens que j'aimais bien et qui étaient partis ailleurs, notamment ma première éditrice, Caroline
Donc,
Lépée.
Donc, c'est d'abord pour des raisons affectives et pas nécessairement pour des raisons de business, en fait, c'est ça?
Mais oui, oui, parce que sinon, il n'y a pas d'écriture, ben, bien sûr. Hein.
Vous écrivez dans La vie secrète des écrivains des choses un peu plus cash que d'habitude quand vous parlez, par exemple, de la fameuse vraie littérature. Hein, je n'avais jamais laissé à personne le droit de me dire ce que je devais lire ou pas, et cette façon de s'ériger en juge pour décider ce qu'était de la littérature.
Ah oui, ça m'a toujours mais vraiment mis hors de moi, les gens qui disent « ça c'est un vrai écrivain, ça ouais. C'en est pas, ça c'est de la vraie littérature, mais attendez, qui êtes-vous les gars ?» Enfin, c'est toujours horripilé, effectivement.
Et les journalistes en prennent aussi un peu pour leur grade, hein. Ils ne vérifient pas leurs infos dans votre ouvrage, ils se recopient entre eux. C'est vraiment ce que vous pensez?
Je pense que c'est comme dans toutes les professions, non?
Il y a des dérives?
Il y a les bons et les moins bons, bien sûr.
Vous fuyez les snobs, les mauvais journalistes, vous n'êtes pas un people. Et pourtant, ouais. Vous êtes célèbre, sans l'être.
J'ai
vous
avez une vie normale. J'ai une notoriété dans mon domaine, on va dire. Moi, je n'ai jamais recherché ça, jamais recherché la notoriété, la célébrité encore moins. Disons que le succès m'est plus tombé dessus. Je n'ai pas recherché le succès. J'ai écrit des romans qui en ont eu et j'en suis fier. Hein. Je suis content d'avoir des lecteurs. Mais voilà,
quelques millions à travers le monde.
Voilà. Mais disons, je suis... Lorsque je rencontre des lecteurs, ils me parlent toujours de mes livres, de mes personnages et pas de ma vie personnelle. Et ça, franchement, c'est une victoire, bien sûr.
Alors, comme votre personnage, vous aimez la vie tranquille, sauf que vous ne vivez pas reclus et loin dans une île de la Méditerranée. Pour autant, vous écrivez, Guillaume Musso, je vous cite, « L'existence d'un écrivain est le truc le moins glamour du monde. Tu mènes une vie de zombie, coupée des autres, tu restes la journée en pyjama, t'abîmer les yeux devant un écran bouffant de la pizza froide. » C'est ça le secret?
Ben c'est, en tout cas, ça nécessite de passer par la case travail. Moi, je suis un extensif plutôt qu'un intensif. Donc, pour arriver à sortir quelque chose, j'ai besoin effectivement de travailler longtemps et d'y consacrer mes journées. C'est à la fois un plaisir et une souffrance, l'écriture.
Et vous le pouvez, puisque c'est aujourd'hui que sort votre nouveau roman dans votre nouvelle maison d'édition, Calman Lévy. Il y en aura partout dans les présentoirs, dans les librairies, dans les supermarchés. Est-ce que vous allez l'acheter par superstition?
J'en achète toujours, souvent quand je dois emporter un à des amis que j'ai oublié le prendre chez moi, je vais parfois l'acheter, effectivement.
On vous reconnaît?
C'est pas très grave.
Merci Guillaume Musso d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre nouveau roman qui sort aujourd'hui, La vie secrète des écrivains, aux éditions Calman Lévy.
Et vous, quel roman de Guillaume Musso vous a fait vibrer? Dites-le nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, cette information exclusive que vous révèle Europe 1 ce matin. La principale mutuelle des policiers supprime de ses fichiers toutes les adresses postales de ses adhérents par crainte de piratage. Les détails dès le début du journal de 8h dans quelques instants avec David Doucan. Et puis, dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, de bonnes nouvelles du chanteur des Cure, Robert Smith. Vous l'entendrez, il est de retour et en très grande forme. Quand je dis Robert Smith, je pense à Cantelou, qui se moque de moi direct. Ouais.
Mais il va le faire tout à l'heure, c'est certain.
Il nous écoute, il arrive.
A tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h54. 7h56, l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Tous les jours, juste avant 8h, avec vous Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, vous nous donnez des nouvelles d'un chanteur culte des années 80, Robert Smith, le chanteur, le leader du groupe Cure, toujours en forme.
Oui, alors déjà pour vous dire que physiquement et capillairement parlant, Robert Smith n'a pas trop changé. Bon, quelques tifs en moins, quelques kilos en plus, vous me direz, on en est un peu tous là. Bah oui, quand même, bientôt 60 ans, Robert. Mais toujours ce même look de corbeau un peu moqueur qui aurait piqué le rouge à lèvres de ma petite sœur.
Close to me.
Et ça, c'est cadeau. Alors, pourquoi je vous parle de Robert Smith? Parce qu'on a bien ri l'autre soir au Rock'n'Roll Hall of Fame. Grande cérémonie d'intronisation des gloires de la musique et grand numéro de Robert sur le tapis rouge. Vous allez l'entendre, ce qu'on appelle jouer le contraste avec une jeune journaliste très, très enthousiaste.
Congratulations, félicitations, les Cure, lauréats du Rock'n'Roll Hall of Fame 2019. Est-ce que vous êtes aussi excité que moi?
Apparemment non.
Punchline de l'année, messieurs, dames. Oui, Robert Smith, comme on l'aime, décalé, désinvolte, décapant. Et surtout de retour, parce que c'est le plus important, il l'a confirmé, The Cure va sortir un nouvel album vers la fin de l'année. 40 ans après le premier, ça se fête. Allez, vous pouvez monter le son et vous savez quoi?
C'est
peut-être aller me faire crêper les cheveux.
On n'en a pas assez.
C'est notre génération, Laurent Cabrol, The Cure. Vous vous en souvenez, et certainement de celle d'auditrices et auditeurs qui nous écoutent ce matin. Merci de votre confiance. Et merci Jean-Philippe Ballas. C'est toujours une respiration, vos musiques.
À suivre le journal de David Doucan.
En tout cas, je suis comme lui, j'ai les tifs en moins et les kilos en plus. Hein.
Ouais, mais vous n'avez pas le maquillage, tout va bien. C'est le maquillage qui peut faire des ordres un peu. Vous savez, le rouge à lèvres ou le...
Ah oui, c'est ça. Ouais,
quand ça coule en plus au niveau du rimmel. Bon, alors, le ciel,
écoutez,
dit quoi ?
La question que l'on se pose, c'est de savoir si les pluies qui arrivent seront suffisantes dans les régions du sud-est où on a besoin vraiment d'eau et en quantité. La réponse, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation parce qu'on ne le sait pas, on ne connaît pas l'intensité des pluies qui vont arriver. Est-ce que ce type de temps, celui que nous avons en ce moment, est un temps qui va durer ? On a tendance à penser, enfin, en ce qui me concerne, j'ai tendance à penser que oui.
Que oui.
Donc,
des jours pourris à venir, alors.
Voilà, voilà, un changement radical. Alors, pour aujourd'hui, voici un petit découpage rapide. Champagne-Ardenne, Nord, Lorraine, région parisienne, Morvan, Berry, Orléanais, Limousin, Midi-Pyrénées, puis Auvergne et Vosges dans l'après-midi. Si vous habitez toutes ces régions, prévoyez des petites ondées ce matin et des orages avec des averses et des giboulées l'après-midi. Si vous êtes dans le Nord, la Picardie, la Vallée de la Loire, la Normandie, le Poitou-Charentes, il pleuvra plutôt en deuxième partie de journée, vous voyez, après le repas. Sur la Bretagne et le Cotentin, quelques éclaircies à l'heure du goûter. Et puis sur l'Alsace, la région Rhône-Alpes et la région PACA, là, nous serons dans le ciel et sous un ciel voilé. Mmh. Bon, vous avez à peu près la physionomie de ce qui se passe là-haut. Ce qui se passe autour de nous, ce sont les températures, la masse d'air. 11 à Caen, 12 à Rennes, 13 à Cognac, 15 à Lille cet après-midi, 16 à Marseille, Toulouse, Dijon, Clermont-Ferrand, Paris, Nancy, 17-18, 19 à Colmar et 21 degrés à Lyon. Vous voyez, les températures encore douces, mais ça ne va pas durer. Dès que vous entendrez les orages, chers amis, dès que le temps va s'agiter, vous saurez que juste derrière, les températures vont s'écrouler.
Laurent Cabrol sur Europe
1. Oui, le prochain point météo juste avant 8h30.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Merci d'avoir choisi Europe 1, merci de votre confiance. Il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Seignes.
Le journal présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Et si on essayait de protéger ceux qui nous protègent, initiative de la mutuelle des policiers, faire disparaître les adresses personnelles des fichiers afin de limiter les risques d'une attaque ou d'une agression au domicile des fonctionnaires. Informations et explications dès le début de ce journal. Rien ne va plus entre Emmanuel Macron et les élus corses, en tout cas les nationalistes majoritaires dans l'île. Ils ont annoncé qu'ils boycotteraient la venue du président après-demain, Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, sera avec nous dans un instant. Et puis, c'est une évolution majeure. Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant le 28 avril prochain. Nous serons avec notre correspondant à Alger dans cette édition.
Et puis, juste après le journal, à 8h12, Vincent Herouette reviendra justement sur ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. On écoutera son analyse.
Europe 1.
Nous nous souvenons de ce couple de policiers assassinés à son domicile par un djihadiste. C'était à Magnanville en juin 2016. Depuis, ceux qui nous protègent demandent eux aussi à être protégés. Et c'est ce que va faire la principale mutuelle des policiers en supprimant de ses fichiers les adresses postales de ses adhérents. Ainsi, même en cas de piratage, les coordonnées privées ne finiraient pas entre les mains d'éventuels malfaiteurs. Information Europe 1 signée Aude Leroy.
Ils sont toujours aussi fiers de leur uniforme, mais les policiers deviennent prudents. Et encore plus depuis l'assassinat de Magnanville il y a 3 ans, où un couple de policiers a été tué à son domicile. Désormais, les habitudes quotidiennes ont changé. Détail Damien, un policier du Val d'Oise.
La chose la plus importante, je pense déjà, c'est de ne pas résider au même endroit que où on travaille. D'autre part, les courriers sous pli caché, il faut les privilégier. On va éviter aussi de se vanter d'être policier, dire simplement qu'on est fonctionnaire.
Et pour éviter, en cas de cyberattaque, la fuite sur Internet d'adresses personnelles de policiers, leur principale mutuelle, la MGP, propose de les faire disparaître de ses fichiers informatiques. Elle les contactera désormais par courriel ou par téléphone. Objectif risque zéro, explique son président Benoît Briat.
On est aujourd'hui sur le risque zéro, c'est que personne ne viendra à mon domicile embêter ma famille, personne ne viendra me bousculer en fait dans ma vie personnelle, au-delà en fait du risque que je prends au quotidien dans l'exercice de ma profession.
Supprimer une par une les quelques 200 000 adresses postales va prendre du temps. ans. Mais la mutuelle le promet, tout sera opérationnel pour le 1er janvier 2020.
Informations et explications signées Aude Leroy pour Europe 1.
Européenne 2019, ça grogne au Parti Socialiste.
Oui, les adhérents votent ce soir dans toutes les sections pour ratifier la liste bâtie par Olivier Faure. Peu de chance qu'elle soit rejetée, mais le choix de Raphaël Glucksmann, qui n'est pas membre du PS comme tête de liste, a du mal à passer, comme en atteste ce reportage réalisé dans le Nord par Lionel Gougelot.
Cette liste pour les européennes, certains militants socialistes ont l'impression qu'elle ne leur ressemble pas. Elle nous a été imposée par le haut, regrette par exemple Mehdi Chala, porte-parole du mouvement des jeunes socialistes.
Il y a des militants aujourd'hui qui se questionnent de cette liste qui arrive du jour au lendemain. Je pensais que finalement on aurait profité de cette occasion pour renouveler au maximum, pour avoir des candidats venus de tous les territoires. Et c'est là où je crois qu'on n'est pas à la hauteur.
Et le symbole de ce malaise pour les militants contestataires, c'est la tête de liste, Raphaël Glucksmann, qui n'est tout simplement pas de la famille.
Raphaël Glucksmann, on le connaît assez peu. Quelle est sa vision de la politique? C'est flou, c'est aléatoire. Sur quel banc va-t-il siéger? Alors Olivier Faure dit qu'il va siéger sur les bancs socialistes. C'est bien, mais qu'il le dise lui-même.
Alors ce soir, dans certaines sections socialistes du Nord, comme celle de Romain, à Douchy-les-Mines, les militants refuseront de valider cette liste qui dilue le Parti Socialiste dans le mouvement Place Publique de Raphaël Glucksmann.
Ouais, ils sont tristes parce qu'on est perdu au milieu d'un mouvement que les militants ne connaissent pas. Quand je vais leur demander d'aller coller des affiches, je ne sais pas s'ils vont y aller.
Des militants qui, par ailleurs, ne constatent aucun réel frémissement dans les sondages.
Reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot.
Et à 8h15, Raphaël Glucksmann sera sur Europe 1 et il essaiera de lever ses doutes au micro d'Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique.
Et puis cette décision du tribunal administratif de Paris au sujet du débat sur les européennes organisé par France 2 après-demain. La justice ordonne à la chaîne de télévision publique d'inviter Benoît Hamon du mouvement Génération, Florian Philippot des Patriotes et François Asselineau de l'UPR, ou à défaut de les inclure dans un autre rendez-vous mais similaire avant le 23 avril.
La visite d'Emmanuel Macron en Corse jeudi, sous haute tension, David.
Oui, pour son ultime rencontre avec des élus dans le cadre du grand débat national. D'abord, deux tentatives d'attentat ont été déjouées, des charges explosives découvertes devant deux bâtiments des finances publiques à Bastia. Et puis, il y a un climat de défiance qui s'est installé entre le gouvernement et les élus nationalistes majoritaires dans l'île. Bonjour, Gilles Simeoni.
Bonjour.
Vous êtes le président du Conseil exécutif de Corse. Vous avez décidé de carrément boycotter la venue du président de la République après-demain. Dans Corse Matin, il affirme aujourd'hui que lui, il est disponible et volontaire pour débattre. Pourquoi refusez-vous? C'est toujours mieux de se parler, non?
Bien sûr, c'est toujours mieux de se parler. D'abord, sur la question des attentats, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que la voie démocratique. Il faut le dire encore et toujours avec force. Nous avons continué à travailler, nous avons continué à exposer. Malheureusement, nos demandes ne sont jamais prises en compte. Je dirais même qu'elles ne sont même pas à l'agenda politique. Quant à la réunion de jeudi, là aussi, on nous a expliqué qu'il ne pourrait pas y avoir de véritable échange et que de toute façon, le président ne serait pas là pour répondre aux questions, mais surtout pour écouter ce qui se dirait. Nous avons déjà beaucoup et souvent parlé.
Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir dans une logique de dialogue avec le président de la République, Gilles Simeoni?
Ben d'abord, je rappelle que oui, nous sommes disponibles pour le dialogue, à condition que ce ne soit pas un marché de dupes. Moi, je crois qu'il faudrait que d'ici à jeudi, le chef de l'État donne des signes forts, publics, de ce qu'il est prêt à, non pas à prendre en compte la totalité de ce que nous disons. Il est normal qu'il y ait des désaccords, mais au moins qu'il accepte de mettre à l'agenda politique ce pourquoi les Corses nous ont mandatés pour le suffrage universel.
Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse, merci à vous, vous étiez en ligne pour Europe 1. Le procès de Bernard Tapie, le ministère public a requis hier 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'homme d'affaires pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il est accusé d'avoir obtenu frauduleusement plus de 400 millions d'euros dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h avec David Doucan, Abdelaziz Bouteflika, qui s'apprête à démissionner. On sera en Algérie dans un instant avec notre correspondant. A tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan. C'est une page à la fois historique et politique qui se tourne en Algérie.
Oui, puisque la présidence a officiellement annoncé qu'Abdelaziz Bouteflika allait démissionner avant l'expiration de son mandat, donc d'ici la fin du mois. Alors que va-t-il se passer ensuite? Les membres du clan Bouteflika doivent-ils commencer à s'inquiéter? La correspondance de Nour Chahine à Alger pour Europe 1.
Ce départ annoncé avant le 28 avril, c'est déjà une source d'espoir pour les Algériens. L'espoir d'élections au plus tard en juillet. Mais aucune assurance ici sur la fin du système, ce que réclame la rue. Encore de nombreuses incertitudes. Si Abdelaziz Bouteflika promet de laisser le pouvoir, quittera-t-il l'Algérie et que fera son clan? D'ores et déjà, des centaines d'hommes d'affaires et dignitaires algériens sont interdits de sortie du territoire. La justice leur reproche des affaires de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. L'ancien patron des patrons notamment, Ali Haddad, arrêté à la frontière tunisienne. Ce proche d'Abdelaziz Bouteflika tentait de quitter le pays par la route. Cet intérêt soudain de la justice algérienne pour la corruption, voilà un nouvel acte fort de l'armée pour affaiblir le camp présidentiel.
Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 à Alger, les députés britanniques ont encore voté contre tout. Ils délibéraient hier sur 4 alternatives à l'accord de Brexit du gouvernement, toutes rejetées. La sortie de l'Union européenne est prévue dans 11 jours.
Et maintenant, David, vous nous emmenez dans un tout autre registre au salon du snacking, porte de Versailles à Paris. De quoi parle-t-on ?
Alors, en français, puisqu'après tout, pourquoi utiliser l'anglais ? On peut parler de grignotage ou de restauration rapide. Et vous allez voir qu'en la matière, on innove avec des machines qui vont vous surprendre. François Geffrier.
Une boîte métallique de 2 mètres de haut où l'on glisse de la monnaie. Vous avez reconnu un distributeur automatique, mais celui de Pascal Ponsardin vous sert
des frites qui sont sans huile. Une fois que vous avez choisi votre volume de frites et payé, les frites sont bien cuites et vous recevez également un petit ketchup, une fourchette, une serviette. Le tout en 5-6 minutes.
Comptez 6 euros le cornet de frites, on doit pouvoir trouver mieux. Voici une machine plus petite, l'Aligo Express.
Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des frites, des potatoes, c'est tout. Là, vous avez un Aligo et c'est moins gras qu'une.
Bertrand Carrier présente cet engin qui vous fait la part à 1,50€.
Une part ou 1000 parts par service, vous pouvez honorer votre client avec toujours un aligot filant.
C'est super bon.
Ça manque une chose, une saucisse avec.
Reste à voir comment se débarrasser du plastique jetable présent presque partout dans la restauration rapide et les sandwichs de supermarché. Olivier Esten de la société Papstar a un début de réponse.
La canne à sucre ou les produits de feuilles de palmier par exemple, qui présentent la grande qualité d'être compostable. Et le défaut malheureusement de venir d'assez loin, puisque évidemment il faut des climats relativement humides et chauds, donc c'est plutôt vers l'Asie.
En résumé, on sait faire une machine qui vous donne la frite, mais pas manger celle-ci de manière écologique.
Reportage signé François Geffrier du service économie d'Europe 1. Football
ça
hier.
Donne faim.
Oui, ça donne. Enfin, je suis pas sûr. Non, ouais. Si vous avez vraiment
oh,
bien écouté
truc.
Parce que
oui, mais le matin, personnellement, on mange n'importe quoi à ce temps-là, je vous le dis.
Personnellement, je sais
allez,
pas. Allez,
sport,
faim.
Sport.
Oui, après la sustentation, le sport. Victoire hier de l'AS Saint-Étienne 2-1 face à Nîmes. Les Verts sont désormais 4e au classement. Et puis en Coupe de France, demi-finale ce soir entre Lyon et le Stade Rennais. Coup d'envoi 21h10. Demain. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, affrontera Nantes au Parc des Princes pour une place au Stade de France. Sachez enfin, Nikos, qu'un hommage à la cinéaste Agnès Varda, notamment en présence de ses enfants, lui sera rendu ce matin à la Cinémathèque française à Paris. Ses obsèques auront lieu à 14h au cimetière du Montparnasse.
On aura une pensée pour elle. Merci David Decamp pour le journal de 8h.
À demain.
La matinale d'Europe 1. Nico Sayagas.
Il est 8h12, Nico, on retrouve Vincent Hervouet pour l'actualité internationale.
On a entendu il y a quelques instants notre correspondant, Nour, en direct d'Alger. Vincent Hervouet, bonjour.
Bonjour à tous.
Abdelaziz Bouteflika quitte donc la scène après 20 ans au pouvoir.
Oui, qui a poussé le fauteuil roulant hors de la scène, les généraux ou les manifestants? Le peuple dans la rue le vendredi ou l'armée qui s'impatiente dimanche? Ou les deux, mon capitaine? Alors, première remarque. Le président ne démissionne pas, il annonce qu'il va démissionner. Quand ? Avant le 28, fin de son mandat, tout à l'heure peut-être, ou le 27, Inch'Allah. Une vieille blague cubaine prétendait que Fidel partirait en avril, mais sans jamais préciser l'année. Castro est parti quand il l'a décidé, c'était en février. Abdelaziz Bouteflika fait mine d'être encore maître du calendrier. Il a dû renoncer au 5e mandat, il a renoncé à prolonger le 4e d'un an ou deux, il renonce même à le conduire à son terme, toujours trop peu, toujours trop tard. Ça fait une semaine que les généraux l'ont déclaré inapte, mais le clan présidentiel négocie pied à pied. Le parti, le syndicat, le parquet, tous ses soutiens le lâchent. Les autres cherchent à fuir, comme le patron des patrons, arrêté à la frontière et jeté aux oubliettes. On ignore où, sous quelle accusation, personne ne s'étonne. Mmh. Ce nouveau riche incarne la corruption du régime. Les jets privés sont donc cloués au sol, interdits de vol. Ce n'est pas la valise ou le cercueil, mais fais tes bagages, la chasse est ouverte. Le régime se délite. dans un tourbillon de fake news, le clan Bouteflika s'accroche toujours et veut sauver la face. La nomination d'un gouvernement technocrate avec quelques fidèles, et aussi le général Gaïd Salah, le Brutus qui a donné le signal de la curée, est l'expression de ce rapport de force. La transition a commencé. Selon la Constitution, il faut expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président cet été. Scénario très improbable.
Et les millions d'Algériens qui ont manifesté, en fait, ils veulent la fin du système, pas que les choses rentrent dans l'ordre.
Oui, le slogan, c'est « Dégagez, partez tous ». Ça inclut les généraux, les services, l'État profond. L'armée avait mis Bouteflika au pouvoir, le premier civil depuis l'indépendance. Aujourd'hui, elle le chasse. Il s'agit de prendre de vitesse le printemps algérien. Elle veut tout changer pour que tout reste comme avant. Alors c'est le genre de mouvement tactique qui est facile à décrire dans le bac à sable et quasi impossible à exécuter sur le champ de bataille.
Vincent Hervouette pour l'édito international.
Mais bravo Nikos.
J'ai bien prononcé votre nom.
C'est ça.
Au bout de cette mois, hein. Bon, merci beaucoup.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Audrey Crespo-Mara, qui est votre invité dans deux minutes.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Bonjour. Glucksmann veut dire l'homme chanceux. Il lui en faudra sans doute de la chance pour porter le PS aux européennes. Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique, du nom du mouvement qu'il a fondé, sera mon invité.
Et Crespo-Mara, ça veut dire quoi?
Ouf, si vous saviez, j'ose pas vous le dire.
Je ne lâche rien, je pose les bonnes questions, à tout de suite.
Sur Europe 1 avec Nikos Aliagas, il est 8h15. Il est 8h17, Nikos Aliagas.
La tête de liste PS Place Publique aux Européennes, Raphaël Glucksmann, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour, je suis ravi d'être là.
Eh bien nous aussi, on est ravis de vous recevoir. Depuis que vous êtes devenu tête de liste, l'EPS stagne et baisse même un peu dans les sondages pour les européennes, à 5% en 7e position. Il n'y a pas d'effet Glucksmann.
Bah attendez, la campagne n'a pas commencé, on n'a toujours pas parlé d'Europe, donc je ne pensais pas que sur mon nom, tout d'un coup, la terre entière allait se retourner et la mer rouge s'ouvrir.
François-Xavier Bellamy a un effet sur son nom.
Mais
il y a pas
vous avez remarqué qu'au début, non. Tout le monde disait, mais non, il n'y a pas d'effet François-Xavier Bellamy. Et quand on a laissé François-Xavier Bellamy parler de son projet, alors ce n'est pas du tout le mien, ce n'est pas du tout ma vision du monde, mais je trouve ça très bien que la droite conservatrice ait une figure comme Bellamy qui s'exprime, eh bien tout d'un coup les gens sont mis à écouter et ont été surpris par le ton.
Donc vous attendez votre tour.
Pas cette politique des petites phrases, mais
alors
les idées.
Alors justement, les petites phrases, vous y avez eu droit, non, parce que vous n'avez pas été épargné. Stéphane Le Foll, proche de François Hollande, affirme que votre désignation comme tête de liste du PS est une mauvaise plaisanterie. Comment faire pour qu'il vous prenne au sérieux?
Ah, je sais pas, mais je vais pas faire une campagne juste en me focalisant sur Stéphane Le Foll. Ce que je veux, c'est faire une campagne sur l'Europe. C'est le combat de ma vie.
Mais ces attaques, j'imagine qu'elles vous blessent, non?
Ah, non, je suis pas là pour être blessé. On m'avait prévenu que la politique, c'était une entrée dans l'atmosphère un peu tumultueuse et turbulente. Mais
et alors?
Oui, je confirme, je vous jure. Mais c'est un peu ça le problème aussi. C'est qu'il y a des gens qui ont fait carrière dans la politique. Et donc, quand quelqu'un qui n'est pas du sérail arrive, eh bien, ils ont l'impression qu'il vient sur leur territoire, voler leur nid, voler leur travail. Ben non, la carrière politique, c'est fini. C'est pas une carrière, c'est un engagement. Et moi, je veux parler de l'Europe parce que c'est la cause de ma vie. Vous savez, depuis que je suis petit, je rêve d'Europe. Il n'y a pas une élection où je me serais engagé si ce n'était l'élection européenne, parce que c'est à l'échelle européenne qu'on décide de choses aussi importantes que la régulation de la mondialisation, la lutte contre le réchauffement climatique, la défense des libertés publiques.
Alors il n'y a pas que ces vieux briscards de la politique. Oui. Des membres fondateurs de votre mouvement Place Publique, qui n'a que 6 mois d'existence, ont déjà claqué la porte. L'un, Farid Benlaga, vous accuse de mépris de classe, d'aveuglement, d'absence de connaissance de ce pays. L'autre, l'économiste Thomas Porcher, autre cofondateur de Place Publique, vous accuse de trahison de la promesse initiale. Est-ce que ça ne vous inquiète pas sur vos capacités de rassemblement?
Écoutez, on a lancé un rassemblement, justement, on est la seule liste qui essaye le rassemblement. Le Parti Socialiste a rejoint une dynamique de rassemblement et n'aura pas une tête de liste socialiste.
Il y a 6 listes à gauche.
Donne de Pierre Larouturou et des acteurs du pacte finance-climat qui nous ont rejoints. Il y a des gens qui viennent de tous les partis de gauche qui nous ont rejoints. Donc oui, on est sur une dynamique de rassemblement. Est-ce que j'aurais voulu que la dynamique de rassemblement soit beaucoup plus large et qu'il y ait beaucoup moins de candidats à gauche? Alors je ne veux pas trahir un secret d'État en vous disant oui.
Raphaël Glucksmann, il y a 6 listes à gauche. 6. Vous ne le vivez pas comme un premier échec, vous qui vouliez unir la gauche?
Écoutez, déjà, c'est pas fini. Moi, j'ai dit, on a une liste ouverte et j'espère qu'à la fin, il y en aura moins que 6, que des dynamiques politiques qui se créent pousseront les gens à dépasser les logiques de chapelle, les querelles d'ego, les stratégies pour 2022 ou 2075, pour enfin parler d'Europe ensemble, parce qu'il y a des combats à mener en Europe ensemble, et que c'est à peu près le dernier moment où on peut éviter la dislocation de l'Union européenne, et qu'il faut lui redonner sens.
Vous parlez de, effectivement, de bataille d'égo. Ségolène Royal dit toutes ces listes, cette gauche éparpillée, c'est de la bataille d'égo de ces messieurs. Parce qu'effectivement, on ne voit pas vraiment de différence entre Benoît Hamon, Yannick Jadot et vous, par exemple. Yannick Jadot, il est très haut dans les sondages. Pourriez-vous le rallier?
Mais il n'est pas très haut dans les sondages.
Ah bah plus
tout le monde
vous,
stagne. Oui, il est à deux points au-dessus, ou un point et demi au-dessus. Je ne sais pas. Enfin, tout ça, la campagne n'a pas encore commencé. Ce que je pense, c'est qu'il va falloir qu'on parle du fond. Alors, je sais que c'est hyper compliqué.
Mais il y a une réelle différence entre Benoît Hamon, Yannick Jadot et vous, franchement.
Bah, je ne sais pas. Moi, Yannick Jadot, par exemple, il nous explique que l'écologie n'est ni de gauche ni de droite, qu'elle peut se concilier avec le libéralisme. Je pense, moi, qu'il y a un message très fort qui a été délivré par Nicolas Hulot et qui nous a expliqué, lorsqu'il a démissionné, qu'il y avait un problème de système et qu'on est en France, aujourd'hui, dans une crise sociale sans précédent. Ça fait 4 mois que ce pays est bloqué, justement parce qu'une mesure pseudo écologique, sans considération de son impact social, eh bien, a précipité les gens dans la rue. Donc, ce que nous, on va essayer de porter, c'est l'idée simple que, en fait, cette transformation écologique qui est absolument vitale et nécessaire, elle ne peut se faire que si elle est aussi un projet de transformation sociale, de justice fiscale, et que les deux, en fait, ne peuvent pas être dissociés. Si on dissocie les deux, on perdra tout sur l'écologie et tout sur le social. Et à la fin, ce qui va se passer, ce sera des sociétés explosées, fracturées.
Au-delà des attaques dont on a parlé, on vous a en plus collé une étiquette de bobo parisien. Est-ce que pour la France des Gilets jaunes, cette image de bobo n'est pas pire que l'image d'un homme politique?
Je vous jure, les gens qui me collent une étiquette de bobo parisien sont des bobos parisiens. Et quand je vais à Dunkerque, à Clermont-Ferrand, quand on discute avec des agriculteurs, il n'y en a pas un qui me parle de bobo parisien. Donc ça, c'est l'obsession, vous savez, c'est des bobos parisiens qui ne parlent que des bobos parisiens, qui scrutent si l'autre qui est interrogé est bobo parisien. Moi, j'ai fait l'école, par exemple, de Sciences Po, bien sûr. Donc, je ne vais pas faire semblant d'avoir été un apprenti. Mais simplement, ce que je vous dis, c'est que je suis parti, moi, à 20 ans, parce que cette élite de l'entre-soi française me désespérait, me semblait complètement apathique, aphone, endogame. Et que donc, je suis parti d'abord en Algérie, puis au Rwanda, puis en Europe de l'Est, pour essayer de découvrir le monde. Donc, pas une trajectoire de bobo qui passe sa vie à boire des bières dans une terrasse du 10e arrondissement de Paris.
Raphaël Glucksmann, vous dites que la gauche s'est trompée depuis 30 ans. Il n'y a vraiment rien à sauver
dans
les bilans de Mitterrand, Jospin, Hollande.
Mais bien sûr qu'il y a plein de choses à sauver. Mais elle s'est trompée sur l'impact. Et je me suis trompé aussi. Toute la gauche s'est trompée sur l'impact déstructurant du néolibéralisme sur nos sociétés, sur la perte des horizons collectifs, sur l'incapacité qu'elle avait, à développer un horizon politique qui ne se limite pas aux libertés individuelles. Je veux dire, quand on s'engage en politique, et en particulier à gauche, c'est que l'ambition, c'est de transformer la société dans un sens plus juste.
Alors,
est-ce qu'on a réussi à le faire? Non. Donc, à un moment, quand on perd des élections, au lieu de dire que les gens sont bêtes, on s'arrête, on regarde ce qu'on a fait, on regarde ce qu'on a dit et on comprend ce qui ne fonctionne pas.
Alors, c'est
peut-être pas une tradition politique très développée, mais je pense, moi, que la réflexion, l'introspection, la capacité à dire on s'est trompé, c'est extrêmement important.
Votre jugement négatif, en tout cas, François Hollande ne vous le rend bien. Il n'a même pas pris la peine de dire du mal de vous. Il s'est contenté de dire qu'il ne vous connaissait pas. Est-ce que vous pensez que, finalement, c'est le meilleur service qu'il pouvait vous rendre, ne pas vous soutenir?
Mais personnellement, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Et moi, ce que je sais...
François Hollande, il se pose comme rénovateur de la gauche.
Ben c'est très bien, parce que moi aussi, je suis un rénovateur de la gauche. Donc
il est moins crédible que vous?
Mais non, c'est pas une compétition.
Pour rénover la gauche?
C'est pas du tout une compétition. Enfin... On va pas s'opposer là, on a quand même, je veux dire, moi mes adversaires, ils sont extrêmement clairs. C'est d'abord les nationalistes qui menacent de faire une vague qui peut emporter nos démocraties en Europe. C'est ensuite les libéraux et les technocrates qui leur ont pavé la voie, qui ont préparé le chemin pour eux. Mais j'ai pas, moi, d'adversaire à gauche.
Je veux dire, l'absence de soutien de François Hollande, elle vous sert plutôt ou elle vous dessert, vous pensez?
Mais François Hollande, il est libre de sa parole et de sa pensée. Il a été président de la France. Moi, j'ai un grand respect pour les présidents français. Simplement, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'une dynamique qui se projette sur l'avenir. Une chose très simple, j'étais hier en Belgique avec Paul Magnette. Paul Magnette, c'est l'homme politique le plus populaire de Belgique. Et pourquoi il est devenu l'homme politique le plus populaire de Belgique? Parce qu'il a proposé une ambition qui mêle social et écologie. Et qu'il essaye de rénover la gauche sur cette base-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on reparte des idées. Je comprends tout à fait la logique des petites phrases, mais fondamentalement, les gens, ils ont besoin de quoi quand les partis sont en difficulté, quand le va-et-vient mécanique entre gauche et droite a été rompu? Ils ont besoin qu'on redéfinisse ce qu'on entend par gauche, qu'on entend par droite. Ils ont besoin d'idées à nouveau, ils ont besoin d'horizons politiques mobilisateurs. Il y a tous ces jeunes qui sont dans les rues aujourd'hui sur le climat, mais ils ont besoin de débouchés politiques à leur combat.
Raphaël Glucksmann, une dernière question. Votre compagne, Léa Salamé, ouais, a décidé de se mettre en retrait le temps de votre campagne électorale. Vous avez trouvé cela admirable? Mais est-ce normal? Et est-ce que vous ne culpabilisez pas un peu de l'avoir amené à se mettre en retrait?
Mais j'ai déjà répondu à cette question. Oui, je culpabilise, mais simplement, je ne pouvais pas, moi, laisser passer une fois de plus ces élections sans m'engager. Je ne pouvais pas, en fait, puisque l'Europe est le combat de ma vie et que je la vois se disloquer, que je vois finalement des technocrates sans âme qui n'arrivent pas à lui redonner du sens, je ne pouvais pas, moi, rester sur mon Aventin. Et le 27 mai, j'aurais écrit une formidable tribune dans Le Monde en disant « Eh bien, regardez comme ils sont nuls ». Mais non, mais commenter la médiocrité des autres, à un moment, ça suffit. Ça veut dire qu'on devient médiocre soi-même. Et si on pense qu'on peut apporter quelque chose, il faut le faire, il faut tout tenter, tout essayer, je veux dire. On vit un moment de crise aujourd'hui, un moment extrêmement grave. Il faut qu'on prenne la mesure du péril. Et si on prend la mesure de ce péril, eh bien, on est obligé de tout faire pour essayer d'y répondre.
Merci Raphaël Glucksmann.
Merci. Ce que je retiens, quelques phrases de votre entretien avec Audrey Crespo-Mara, c'est que je ne commente pas la médiocrité des autres. L'élite de l'entre-soi française, elle vous désespère. La gauche s'est trompée sur les pertes des horizons collectifs. Vos adversaires sont les nationalistes et les libéraux qui leur ont préparé le chemin. Et vous auriez préféré qu'il y ait moins de silistes à gauche. On est d'accord ?
Avec une tonalité un peu plus d'espoir sur la fin. Je vous remercie.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Merci d'avoir été notre invité, Raphaël Glucksmann.
Merci à vous.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. À 8h30, l'essentiel de l'info. Nouveau rebondissement dans le procès tapis. Les procureurs requièrent 5 ans de prison ferme contre l'ancien ministre dans l'affaire de l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais. Et puis, l'émotion après le drame survenu dans cette EHPAD de Lerme près de Toulouse. Vous entendrez le témoignage fort du fils de l'une des victimes.
A tout de suite avec Nico Saliagas sur Europe 1, il est 8h27. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nico.
David Abiker pour la revue de presse, il est avec nous. Quels sont les mots-clés de votre revue de presse dans un instant, David? Bonjour.
Bonjour Nico, bonjour Céline. Bonjour. Le mot-clé, c'est charlatan. Les charlatans de l'autisme font la une du Parisien et les charlatans anti-vaccins font la une du Monde. Je vous parlerai des deux.
Très bien, ça sera pour la revue de presse. La revue de presse avec Nicolas Canteloup. C'est dans quelques instants, elle sera là avec Julie. J'étais content de la retrouver hier soir sur TF1, mais c'était un poisson d'avril. Ce soir, c'est bien Alessandra Sublet qui apprendra ses droits. A tout de suite.
Tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Lolo Cabrol, le ciel est orageux, ça y est. Et demain, on aura le froid.
Oui, et je vais peut-être modifier un tout petit peu ce que je dis depuis tout à l'heure, à savoir que l'agitation est plus importante que prévu. Je pensais que ce serait assez calme sur la région parisienne notamment. Or là, deux petits orages viennent d'éclater, à Villacoublay, à Toussuint-Noble, et je vois que la zone orageuse, à la fois sur Champagne-Ardenne, le Nord, la Lorraine, l'Orléanais, le Limousin, le Midi-Pyrénées, la zone orageuse est en embuscade. Cela signifie que l'agitation sera donc un peu plus réelle, que disons un peu plus vigoureuse que prévu, et nous aurons donc un changement de temps un peu plus rapide. Mais enfin, grosso modo, tout ce que je dis depuis ce matin se confirme, à savoir que cette perturbation, cette zone de pluie, de nuages et d'orages traverse la France à l'heure où nous parlons. Elle va un petit peu épargner l'Alsace, la région Rhône-Alpes et la PACA, la région PACA. À Lyon, ce sera pas mal. Mais dans l'ensemble, eh bien, dans toutes les régions, vous aurez une petite menace de pluie, avec des températures qui restent douces. Et douces, il faut vite le dire. Hein. Oui. Dès que les orages commencent à passer, les températures plongent. Mais tout de même, nous prévoyons 18 à Paris, 19 à Colmar et 21 degrés à Lyon.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 2 avril, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nico Saliagas.
La mutuelle de la police offre l'anonymat à ses adhérents pour les protéger. Information Europe 1, à partir d'aujourd'hui, la MGP propose de supprimer toutes les adresses postales de ces fichiers. Elle ne conservera que les mails et les numéros de téléphone. La ministre de la Santé Agnès Buzyn attendue aujourd'hui à la Chêneraie près de Toulouse. 19 pensionnaires de cette EHPAD sont encore sous surveillance médicale après une probable intoxication alimentaire. 5 personnes sont décédées, dont la mère d'Emmanuel. Il envisage de porter plainte.
Quand on place sa maman dans une maison de retraite, c'est pas pour qu'elle finisse intoxiquée.
Vous souhaitez porter plainte?
Oui. Je vais en discuter avec mes sœurs, mais probablement oui. C'est la seule façon d'avoir accès au dossier aussi, puis savoir ce qui s'est passé.
Témoignage recueilli par Benjamin Péter pour Europe 1. Les enseignants menacent de faire grève le premier jour du bac, le 17 juin, pour protester contre les réformes de Jean-Michel Blanquer. Le SNES lance aujourd'hui sa consultation pour savoir si ses adhérents seraient partants. 5 ans de prison ferme, confiscation de tous ses biens. Réquisitoire sévère hier à l'encontre de Bernard Tapie, jugé pour escroquerie. Maître Benoît Chabert, avocat du CDR, l'établissement chargé de solder le passif du Crédit Lyonnais, est satisfait.
C'est vrai qu'il y a un regard très sévère du parquet parce que les finances publiques étaient en jeu et parce que il y a eu tout de même dans ce dossier un arbitrage truqué avec un arbitre qui a fait croire qu'il était indépendant alors qu'il savait parfaitement qu'il était de partie avec Bernard Tapie et son conseil.
Maître Chabert avec Chloé Triomphe aujourd'hui, place aux plaidoiries de la défense. À Londres, Theresa May tient une réunion de crise ce matin avec son cabinet. Hier, les députés britanniques ont encore voté contre les 4 solutions alternatives à l'accord du Brexit. Et puis un mot de football, hier soir, un match en retard de la Ligue 1, Saint-Etienne a battu Nîmes 2-1. Et Saint-Etienne qui grimpe à la 4e place du classement ce soir, demi-finale de la Coupe de France. Lyon affronte Rennes au Parc OL.
Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Et la revue de presse, c'est avec David Abiker, Nikos.
Et David, ce matin, à la une de la presse, on cherche la sortie.
Et oui, on cherche la sortie. Dans la famille de ceux qui cherchent la sortie, il y a bien sûr les Anglais qui n'en finissent plus d'explorer l'impasse du Brexit et d'enfermer une à une les issues de secours. Une sortie sans accord devient presque inévitable, titre 20 minutes et l'Express en ligne ce matin. En France, on se demande comment et quand Emmanuel Macron va sortir par le haut de ce grand débat qui s'éternise, titre Le Figaro, et Vincent Trémollet de Villers dans son édito titré « Par ici la sortie », cite le peintre de la Croix. Finir demande un cœur d'acier. Mais, dit-il, le grand débat n'est pas une œuvre d'art. La bienveillance des premiers jours a laissé la place à l'impatience. La France n'est pas une table ronde et par pitié, pas de grand débat sur l'issue du grand débat. C'est maintenant un grand dessin qu'il faut définir. Dans la presse, vous avez aussi ceux à qui le peuple montre la sortie. Libération met à sa une un portrait pleine page de Bouteflika et juste un mot qui rappelle les printemps arabes. Dégagé. En Turquie, Erdogan, lui, n'est pas encore dégagé, mais à la une du Monde comme du Figaro, il semblerait que les résultats des municipales à Ankara et bientôt à Istanbul indiquent à son parti la porte de sortie. À ses pouvoirs autistes, que disent les peuples sinon que leur avenir est sans issue ?
Autiste, vous avez prononcé le mot, David. C'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Attention aux charlatans.
Et oui, comparé à ces escrocs de l'autisme, le robot Nao, à la une du journal du Centre, Nao, utilisé en maternelle pour développer l'habilité et l'estime de soi des jeunes autistes, paraît bien inoffensif. Dans le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui, l'association SOS Autisme et la mission de lutte contre les dérives sectaires dénoncent ceux qui abusent des parents et des enfants autistes. Sur le marché noir de l'autisme, on trouve de tout sauf des solutions. Une hypnotiseuse à 110 euros la consultation par téléphone, des naturopathes, des coachs en tout genre et même quelques médecins. Ils préconisent des antibiotiques, des vitamines, des régimes sans gluten, des immunothérapies. Pour Sophie Cluzel, secrétaire d'État au handicap, c'est parce qu'il y a errance de diagnostic que certains parents en arrivent à se tourner vers ces charlatans. Estelle a dépensé pour son enfant plus de 6000 euros en compléments alimentaires inutiles. Faut-il aussi mentionner les théories New Age qui font des enfants autistes des individus entourés d'une aura violette et doté de pouvoirs surnaturels? Et que dire de ce docteur qui, consultant le carnet de santé d'Ezio, a dit à son père « Ce sont les vaccins qui ont causé l'autisme de votre fils », ce qui nous amène, Nikos, à la lecture du Monde sur le sujet des vaccins, justement.
Le quotidien Le Monde qui explore ce qu'il appelle la planète anti-vax.
1,5 million de vues pour la vidéo d'une jeune femme qui lit face caméra un texte où elle explique avoir découvert que les vaccins ne servaient à rien. Une vidéo effacée depuis par YouTube et Facebook, mais qui raconte la viralité et l'efficacité des thèses anti-vax. Amazon a lui retiré de la vente un documentaire conspirationniste culte qui dénonce lui aussi la vaccination. Peu à peu, les grandes plateformes internet assument la censure des théories les plus fumeuses, mais attention, précise le Monde, il ne faut pas confondre sur le web la critique du vaccin avec les théories les plus folles, même si les premières parfois amplifient les secondes. Le quotidien montre également comment des petites entreprises commercialisant des produits naturels sont parfois très actives sur les réseaux sociaux pour disqualifier la science vaccinale. Business as usual. Sur un sujet voisin, on lira aussi l'enquête de Valeurs Actuelles qui cette semaine a le mérite de distinguer le complot, le vrai et le faux, de l'accusation de complotisme. En clair, aujourd'hui, si je veux disqualifier l'adversaire, je l'accuse d'être conspirationniste. Et puisque je vous parle de science et de vérité, West France nous conte ce matin l'histoire vraie de Cécile aux États-Unis, qui le 25 mars a donné naissance à sa petite-fille, Uma Louise.
Comment ?
Eh oui, sa petite-fille, une grand-mère qui accouche de sa petite-fille, c'est pas courant. Cette américaine de 61 ans a en effet accepté de porter l'enfant souhaité par son fils homosexuel et le mari de celui-ci. Le fœtus a été créé par fécondation in vitro avec le sperme de Matthew, le fils de Cécile, et les ovules de la sœur de son mari Elliot. Je vous le redis autrement. La grand-mère de Uma Louise a assuré une gestation pour autrui avec la semence de son fils et un ovule fourni par la sœur de son gendre. Je sais, ce n'est pas simple à suivre, mais ça confirme un peu tout ce que je vous ai raconté ce matin. Tout ce qui est trop simple est souvent faux et tout ce qui est vrai est parfois très compliqué à raconter. Alors longue vie à Uma Louise et félicitations aux parents. Ils sont quatre, si j'ai bien compté.
Vous êtes trop fort. La revue de presse de David Abiker, tous les jours à 8h34. David, vous évoquez l'autisme. On en parle dès 9h avec Wendy Bouchard dans le tour de la question sur Europe 1. Et lui fait le tour de l'actualité avec humour. C'est Cantelou qui arrive avec sa revue de presse.
C'était la revue de presse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Bon réveil sur Europe 1. Il est 8h38. Il est 8h40.
Hop, 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 faites-vous plaisir. Voici Julie et Nicolas Cantelou. La revue de presse sur Europe 1.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Cantelou. On commence avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actu.
Hop, 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 c'était dit qu'il a dit. Ouais. 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 Ça vous rappelle la pub de Ford.
Mais oui.
Pardon,
mais
excusez-moi,
oui.
J'étais encore dans les pages de pub. Ouais, on a parlé, bonjour chers auditeurs, tout d'abord, on a parlé de Robert Smith. The Cure. Ce morning. Sûr. On a tous les hits de Cure en tête. Close to me, Boys Don't Cry, Satisfaction, tout ça. Enfin, voilà. Mais l'info surround, c'est cette affaire d'intoxication alimentaire dans un EHPAD de Lerme. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, va se rendre sur place, mais elle n'y mangera pas. Elle apportera son Tupperware ou son sandwich. Les familles des résidents craignent pour la santé de leurs aînés. France Télévisions elle-même craint pour l'avenir des audiences de Motus et de Vivement Dimanche. En tout cas, toutes les personnes âgées de l'EHPAD ont été placées sous surveillance médicale. Oui, mais en même temps, être sous surveillance médicale quand on est âgé, c'est un petit peu le principe d'un EHPAD. Ils ont juste commencé à faire leur boulot, quoi. Allez, à toi, July.
Merci, Nikos. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement. Docteur Douste Blasi, bonjour. Alors, vous suivez pour nous la situation en Algérie, hein ?
En effet. Bonjour, pardon.
Non, mais dis-moi, tout ça. Ben,
on vient de me sortir du placard des vieilles imitations.
C'est vrai, ça.
Oh, j'ai des boules de naphtaline partout. Excusez-moi cette odeur un petit peu bizarre, un peu chimique. Alors, déjà, vous avez dit, parce que je vous écoutais même, Julie, Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement, avez-vous dit.
Oui.
Ce n'est pas tout à fait juste. Pardonnez-moi de vous reprendre, je n'aime pas faire ce genre de choses, mais la phrase exacte, c'est Abdelaziz Bouteflika a bavé un nouveau gouvernement.
Ah, oui. Et donc, qui sont ces nouveaux ministres ?
Alors, il y a Sibeth Ndiaye, Cédric O et Amélie de Montchalin.
Non, ça, ce sont les nouveaux ministres en France.
Oui, mais écoutez, attendez, un peu d'indulgence. Je vous rappelle que Boubou n'a plus toute sa tête. Hein. Et je dois vous avouer qu'il n'a pas tout son corps non plus, on est d'accord là-dessus. C'est déjà bien beau qu'il ait réussi à articuler des noms. Hein. Alors, pour être sincère, il a juste réussi à prononcer le nom de Cédric O. Oui, je vois que monsieur... Apathie dubitatif. Oui, pour être tout à fait sincère avec vous, il a juste réussi à dire « oh ».
Ah.
Voilà. Mais c'est pas mal, il va mieux.
C'est pas mal. Oui. Bon, merci docteur, ça faisait plaisir de trouver.
Je,
hein.
je reviens au placard tout de suite ou je peux. Je prends un bol d'air.
Restez un peu.
Hier, c'était donc.
Ah, mais c'est plus rue François 1er alors. J'ai loupé les épisodes, excusez-moi.
Hier, c'était le 1er avril, l'occasion de faire des poissons d'avril. Et comme tous les 2 avril, le lendemain, la presse nous a fait une petite compile des meilleurs poissons d'avril de la veille. Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour madame. Bonjour aux autres. Je tenais à dire à mes compatriotes que si on ne règle pas, je le dis solennellement, le problème algérien au plus tôt, ce sont, madame, plus de 10 millions de musulmans qui vont débarquer le mois prochain dans nos villes, dans nos campagnes, en France, sur notre territoire.
On sait, ça c'est un poisson d'avril.
Non, 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 c'est le programme du Rassemblement National pour les Européennes. J'ai vu en tout cas le nombre de fake news que nous balançons chez nous, c'est un petit peu le 1er avril tous les jours, on l'a noté.
C'est pas faux, merci Marine Le Pen.
Jean-Pierre, c'est Saint-Naphtaline ici.
Cinq personnes sont donc décédées à la suite d'une intoxication alimentaire dans un EHPAD. Un patient a accepté de témoigner anonymement sur les conditions dans lesquelles sont traités les résidents. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour madame. Je m'appelle Valérie. Je m'appelle, pardonnez-moi, Raoul Melon.
Raoul Melon.
Je suis résident. C'est quoi cette odeur? Je suis résident régulier à la maison de retraite des Pétunias à Jamaïque. Je tenais à témoigner ce matin.
Bah allez-y, allez-y, monsieur. Raoul Melon, allez-y.
Qui ça?
Raoul
qui? Raoul, c'est moi.
Oui, voilà.
Mais évidemment, Raoul Boulon. Raoul Boulon, fleuriste à la retraite.
Bon, oui, écoutez, non, on veut bien que vous soyez anonyme, monsieur Giscard d'Estaing, mais il faut peut-être tenir votre personnage quand même. Hein, là,
oui, d'accord. Hein. Non, bah, écoutez, alors enlevons cet effet ridicule, ce sera plus simple.
Oui, vous dites, oui.
C'est bon, c'est. Oui, ils sont bons, les techniques, aujourd'hui. C'est bien, Nicolas Rome. Alors, bon, alors, écoutez, la situation, il arrive même à faire des effets odorants. C'est vraiment un vrai progrès, c'est la radio 34.0. Alors écoutez, la situation est intenable, les résidents sont mal nourris, il faut le dire. Effectivement, hier, les dératisateurs sont venus, et le soir, par hasard, nous avions double ration de hachis parmentier. Je dis, c'est scandaleux.
Oh non, non, non. Ça, je vous le confirme. Vous avez compris, là?
Oui, ils ne sont pas complètement cons non plus.
Mais personne ne réagissait dans le studio.
Ils font des textos, ils s'en foutent de ma chronique.
Je regarde les commentaires sur Internet de vos blagues. Les gens se rient en direct.
Oui, sur les sites coquins, bien sûr.
Mais pas du tout.
On vous connaît, monsieur.
Mais ça va pas.
Jusqu'à j'ai des dossiers, vous
savez. Ça vous laisse rongeur, tout ça.
Oh là là. Oh
là. Et l'odeur de vin rouge, là. Et l'odeur du vin blanc, mon basilic, du loupiac, peut-être. Des effluves.
Bon, allez, on revient à Abdelaziz Bouteflika. Il démissionnera donc le 28 avril ou avant le 28 avril. Il a nommé un nouveau gouvernement et on est en ligne avec lui pour en parler. Bonjour, monsieur le président. Alors, ce nouveau gouvernement, de qui se compose-t-il? On voudrait savoir.
Je l'ai. Je l'ai.
Oui, c'est moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, qui a-t-il qui a-t-il dans le nouveau gouvernement?
Inspecteur Derek. Inspecteur Derek.
Qui ça? Inspecteur Derek. Oui.
Julien Lepers.
Non, mais c'est pas vrai. Oh, mais madame Julie, arrête, franchement. Je veux fâcher maintenant. Arrêtez d'embêter monsieur Bouteflika avec vos questions incessantes. Vous voyez, il est obligé de réfléchir. Regardez, il saigne du nez maintenant à cause de... Hein, qui c'est qui va devoir encore le ressusciter s'il meurt? Eh bien, c'est Christiane, encore, comme un d'habitude.
Mais enfin, Christiane, votre patient est quand même chef d'État. C'est normal qu'on l'interroge, en tout cas, il est encore pour l'instant. Il démissionne alors, hein, vous savez ça.
Oui, alors j'ai appris ça hier. Ouais. Ses amis sont venus me voir et m'ont dit « Maman Christiane, la situation ne peut plus durer. Tant pis pour la présidence, ça devient trop grave. »
Ah bah, ils réalisent quand même, hein.
Voilà. Non, c'est qu'ils... Mais, oh, C'est si qu'ils ont... Oh. Ils ont besoin de lui ailleurs. Hein ? Oui, ils veulent le faire jouer milieu de terrain dans l'équipe de foot d'Algérie.
Oh là 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 là.
Apparemment, il y a une déficience à ce niveau-là. Ah, donc, ils ont besoin de nouveaux Zidane.
Oui.
Ah oui. Bon, mais vous moquez pas, monsieur Agra, c'est pas sympathique. Il a un bon pied gauche, monsieur Bouteflika. C'est quand il est lancé. Personne n'ose l'arrêter. Hein. Ah ben oui, personne n'a envie d'être celui qui va le tuer définitivement. Ah ben non.
Eh bien, merci. Christiane, et bon courage, voilà. Ma pauvre, à bientôt. Les stars du monde entier se mettent à boycotter des hôtels qui appartiennent au sultan de Brunei, comme le Meurice à Paris ou le Plaza Athénée, car la loi prévoit que les homosexuels et les personnes coupables d'adultère doivent être lapidés. On va appeler un dirigeant d'un groupe hôtelier célèbre pour nous en parler.
Oui. Bonjour à vous. Et bienvenue à les Hôtels Zaku. Hello Tabou, and welcome at the Hôtels Zaku.
Ah ben oui, c'est vrai, Nicolas Sarkozy.
Buongiorno Tabou, et bienvenuto à les Hôtels Accordo.
C'est vrai qu'il est toujours au conseil d'administration des Hôtels Accor, monsieur Sarkozy.
Les Hôtels Accor vous accueillent tous les jours dans des hôtels accueillants qui n'appartiennent à aucun sultan tyranniste, ni aucun méchant grand vizir qui lapide les gens et qui ont le zizi baladeur. Envie de tromper votre femme dans un cadre chaleureux et discret ? Les Hôtels Accor vous proposent une sélection de chambres garnies de waterbed avec miroir au plafond, labellisé Aliagas, pétale de rose, ainsi qu'une large gamme de disques vinyles de Barry White rachetés à Europe 1. Alors, venez faire l'amour à votre babysitter, votre boulangère ou même la sœur de votre femme dans un de nos Hôtels Accor. Le personnel Accor, formé à la discrétion, saura baisser les yeux et regarder ailleurs.
Monsieur Sarkozy, mais qu'est-ce que vous pensez-vous de ces stars qui boycottent les hôtels qui appartiennent à ce sultan, le sultan qui lapide les homosexuels par exemple ?
Les Hôtels Accor accueillent tous leurs clients, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels ou même les deux. Envie de découvrir des sexualités alternatives dans un cadre coquin et sophistiqué ? Les Hôtels Accor vous proposent un large choix de bougies, de masques vénitiens ainsi que de gels intimistes. Notre personnel de maison, spécifiquement formé à ne pas vous lapider, saura vous accueillir. La direction s'engage à ce qu'aucun caillou ne soit jeté sur vous ou votre famille ou votre ami moustachu. Alors, à bientôt dans les Hôtels Accor.
C'est génial. Bon, et puis Nicolas Sarkozy, aujourd'hui ce sont les obsèques d'Agnès Varda. Vous avez retrouvé le titre du film d'Agnès Varda, celui que vous cherchiez hier? Vous avez trouvé?
Écoutez, j'ai beaucoup d'estime pour Madame Varda. Quelle immense cinéaste, une carrière inouïe. J'ai tellement vu de films de Madame Agnès, comme oui, j'aimais à l'appeler.
Oui, mais attendez, le titre de votre film préféré, c'est quand même elle, la femme cinéaste qui représente la nouvelle vague.
Écoutez, bon, on va pas aller là-dessus. Tout le monde sait qu'elle aimait le surf. Mais
non, la nouvelle vague, non, je parlais pas de ça.
Je veux pas parler ni de la surfeuse,
oh non,
ni de la pharmacienne Agnès Varda. Je crois que c'est la ville de Paris qui souhaite rendre hommage à Agnès Varda. Moi, je lance une idée comme ça. Ce serait chouette, je trouve, de peut-être renommer un monument. Je pense à l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille Varda, ce serait beau, non,
non.
Bravo Nicolas Coppeau et bravo Julie.
Bravo.
Vous nous faites du bien tous les jours sur Europe 1. Quel maestro. C'était la revue de presque. À demain.
Et si vous souhaitez voter pour votre imitation préférée Nicolas Coppeau, ça se passe sur Europe1.fr, sur la page du Club Europe 1.
Oui, sur la plage.
La plage, c'est pas mal.
Bonjour Wendy Bouchard.
Ça passe vite la vie, quand même, quitte un repos.
Ah, vous le faites bien. Vous êtes trop fort.
Je l'adore,
trop
Nicolas
fort, Sarkozy.
La conférence.
Alors, oui. On a beaucoup parlé de vous dans la matinale, des thèmes que vous alliez approfondir ce matin.
Je comprends, parce que c'est une journée particulière de sensibilisation. Vous êtes fait le relais de cette sensibilisation sur l'autisme. 700 000 personnes autistes en France, 150 000 enfants, avec des intégrations plus ou moins compliquées à l'école, dans les établissements. Certains sont obligés d'aller trouver des structures en Belgique. Il y a peu de structures en France, pas suffisamment en tout cas. On vous demande justement si ces personnes autistes sont pour vous suffisamment intégrées dans notre société. Ce qu'est l'autisme finalement? Est-ce que c'est un trouble, une maladie,
un handicap? Ça s'appelle un syndrome, c'est ça?
C'est un syndrome, oui. Voilà, syndrome autistique. Il y a beaucoup de formes d'autisme, vous en connaissez peut-être autour de vous. Mmh. On recevra aujourd'hui des parents, en particulier Florent Chapelle, qui a créé cette plateforme Autisme Info Service, qui est inaugurée aujourd'hui. Églantine Émeillé, maman évidemment, Jamila à ses côtés, Joseph Chovanec, qui est ici chroniqueur exceptionnel et qui nous dira la difficulté, mais la joie aussi de vivre avec ces troubles-là.
Il y a Olivia Catan aussi pour SOS
Autisme. Exactement, avec beaucoup de sujets autour du charlatanisme, etc. Nos invités vont répondre sur
là,
le
c'est
sujet.
À 9h, alors, à 9h.
C'est à 9h. Et puis okay. À 10h, on parlera des robots, comment ils habitent nos vies aujourd'hui. Grande expo inaugurée à la Cité des Sciences, et quelque chose entre les robots ménagers et les drones de demain. Mm-hmm. On est loin des humanoïdes imaginaires dans la science-fiction, mais ça progresse quand même et ça captive toujours.
Elle n'est pas robotique. Elle est une femme et une journaliste talentueuse à partir de 9h sur Europe 1. Wendy merci Bouchard.
À suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h53. 8h55, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Sadiagas, mais tout de suite on passe à la météo avec Laurent Cabrol.
Il y a de l'orage dans l'air, Laurent Cabrol.
Oui, et les orages sont de plus en plus nombreux hein, depuis ce matin. Je dois dire qu'ils se manifestent plutôt que prévu, et ces orages vous apportent des giboulées, des averses extrêmement violentes. Ça ne dure pas bien longtemps comme toute forme d'orage, mais enfin il faut vraiment se prémunir. Donc sur l'ensemble de la France, avec une exception tout de même, quelques éclaircies sur l'Alsace, la région Rhône-Alpes, la région PACA, à Lyon sera pas mal. C'est un ciel voilé dans toutes ces contrées. Quelques éclaircies après le repas sur la Bretagne et le Cotentin, mais prévoyez quand même à tout moment un passage pluvieux ou une forte averse. Ces températures sont douces, c'est la consolation. 13 degrés à Cognac, 15 à Lille, 16 à Marseille, 17 à Dijon, 18 à Paris et à Chambon-sur-Lignon, 19 à Colmar et 21 à Lyon.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le mardi 2 avril, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Sadiagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. D'abord cette information que vous révèle Europe 1 ce matin. La principale mutuelle des policiers va supprimer de ses fichiers toutes les adresses postales de ses adhérents, et ce par crainte de piratage. Objectif, mieux protéger ceux qui nous protègent. Écoutez à cet effet, à ce sujet, Damien, qui est policier dans le Val-d'Oise, et le président de la mutuelle MGP, Benoît Briat. C'était dans le journal de 8h.
La chose la plus importante, je pense déjà, c'est de ne pas résider au même endroit que où on travaille. D'autre part, les courriers sous pli caché, là, faut les privilégier. On va éviter aussi de se vanter d'être policier, dire simplement qu'on est fonctionnaire.
On est aujourd'hui sur le risque zéro. Personne ne viendra à mon domicile embêter ma famille. Personne ne viendra me bousculer, en fait, dans ma vie personnelle, au-delà, en fait, du risque que je prends au quotidien dans l'exercice de ma profession.
Le retour des bombes en Corse. Fort heureusement, deux engins ont été désamorcés hier devant des bâtiments publics à Bastia. Climat de défiance alors qu'Emmanuel Macron arrive jeudi pour participer au grand débat auquel n'iront pas les nationalistes. Comme nous l'a confirmé ce matin le président du conseil exécutif Corse, Gilles Simeoni. De quoi agacer Jean-Michel Apathy. Écoutez son coup de gueule, c'était à 7h40.
Ces élus-là, plutôt que d'essayer de régler les problèmes du territoire, s'en prennent tout le temps à l'État. Le chômage, c'est la faute de l'État. L'insécurité, c'est la faute de l'État. Tout est de la faute de l'État. Et du coup, ils créent sur l'île un climat de tension qui échauffe les têtes qui sont déjà chaudes et qui vont déposer donc des bombes devant les bâtiments du fisc. Ben voyons, c'est tellement facile. C'est de l'ambiguïté permanente et un jour tout ça finira mal. Monsieur Talamoni et Simeoni feraient mieux de recevoir, avec les égards qu'il mérite, le président de la République française, parce qu'il est élu comme ils le sont eux-mêmes.
Et puis, cet événement qu'il ne fallait pas rater ce matin sur notre antenne, je recevais l'auteur français le plus lu au monde, Guillaume Musso, qui publie aujourd'hui son 17e roman, La vie secrète des écrivains, aux éditions Calman Lévy. Quelle est sa recette du succès? Je lui ai posé la question. Écoutez, c'était à 7h45.
Vous savez, il y a ce Somerset Maugham qui disait, il y a trois règles pour écrire un roman, malheureusement, personne ne les connaît. Et c'est assez vrai, et c'est la caractéristique, en fait, de l'écriture, c'est qu'on ne sait jamais si on va réussir à écrire un nouveau livre, même si on a écrit 10 avant, on ne sait jamais si on va parvenir à écrire le 11e. Et c'est ça qui est à la fois source d'angoisse et source d'excitation. Et ma seule règle, disons, c'est d'essayer, dans la mesure de mes moyens, à chaque fois, d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur.
Pensée assez socratique, somme toute, chers amis, c'est « Je sais que je ne sais rien ». Mais ça a l'air de marcher pour l'instant pour lui. En tous les cas, c'est l'auteur le plus lu au monde, l'auteur français Guillaume Musso. Merci de nous avoir suivis ce matin, 2 heures d'info et de bonne humeur avec vous. À demain, même heure, même radio.
Avec plaisir, Nico.
Avec Céline Dacosta, elle arrive. Wendy Bouchard, vous êtes en forme?
Après votre belle matinale, je ne peux qu'aller très bien.
Eh bien,
merci.
Bonne journée. Bonne journée. Prenez soin de vous.